Amis de la dissidence, bonsoir. Eh bien, un programme serré ce soir, programme dense, intense. Le trône et l'église sont là, le sabre et le goupillon, si j'ose dire. Puisque j'ai le plaisir de recevoir. Alors là, toute ma bonne éducation est prise en défaut. Je ne sais pas par qui je dois commencer. Je vais commencer quand même par l'Altesse royale, c'est la moindre des choses.
Absolument.
Alors, son Altesse royale, le prince Sixte Henri de Bourbon-Parme, qui est parmi nous. Bonsoir, Monseigneur. Je vous remercie d'être venu, mais vous êtes même venu à quatre pattes, si j'ose dire.
C'est à peu près ça, à quatre pattes, mais à quatre pattes qui sont tout à fait disposées pour la bonne cause.
Comme toujours. L'abbé de Canoirne qui est parmi nous, bonsoir monsieur l'abbé.
Bonsoir Serge.
Pour accompagner monseigneur de Bourbon-Parme, notre excellent camarade Claude Timmerman. Bonsoir Claude.
Bonsoir Serge, excellent, je ne sais pas si...
D'habitude, vous êtes plutôt, vous occupez plutôt de chevaux.
Mais, Monseigneur, ce soir, nous expliquant qu'il est à quatre pattes, il était donc normal que je reste dans la même idée.
Et puis le petit Fersin qui est venu pour m'aider dans cette tâche ardue qui est de faire cette émission pendant 3 heures. Alors, je vous donne
bonjour
tout de suite...
Bonjour tout le monde.
Bonsoir Henri, vous allez être sage?
On va essayer.
C'est bien. Alors, je vous donne la suite du programme. Je recevrai également Jean-Pierre Maugendre qui nous parlera de la journée pour la vie. Et puis, le docteur Dor, mais pas, il ne tiendra pas à son discours habituel. J'allais dire sa ritournelle. Non, c'est vraiment pas gentil.
Ça, c'est méchant, oui.
Non, c'est pas méchant parce que c'est joli une ritournelle. En plus, puis c'est une jolie ritournelle qui chante. Non, vous savez qu'il est pas quand même, c'est pas un personnage comme les autres, le docteur Dor. Alors, il a fait Saint-Jacques de Compostelle. Mais comme c'est pas un personnage comme les autres, et puis vous savez que c'est pas Œil de Lynx non plus. Hein, peut pas, donc, et bien il l'a fait à bicyclette. Donc, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, les automobilistes, les arbres, enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est arrivé à bon port, et même à bon Saint-Jean-Pied-de-Port, et même plus loin. Et donc, il va nous raconter ça. Et puis, je recevrai ensuite M. Froment, qui est... l'un des animateurs du marché Brassens. Le marché de Brassens, c'est un des hauts lieux du livre d'occasion à Paris. Vous connaissez ça, là? Vous connaissez ça, monsieur l'abbé?
Ah, ben, c'est sûr, oui.
Je suis sûr.
C'est encore là qu'on trouve la meilleure littérature, parce que la meilleure littérature n'est pas la littérature qu'on trouve à l'état neuf, j'allais dire.
Non, sûrement pas. Et puis, pour terminer, alors, je ne voulais pas le faire, mais je dois dire que j'ai été contraint par plusieurs demandes d'auditeurs, et l'intéressé lui-même m'a dit « Oh non, écoutez, ça va enquiquiner tout le monde, je suis déjà venu 3 ou 4 fois. » J'ai demandé à Pierre-Marie, le prof de piano, de venir, parce que c'est incroyable. Alors ça, c'est quand même un côté tout à fait étonnant du fonctionnement de Radio Courtoisie. Des mois et des mois et des mois après le passage de ce prof de piano qui a inventé une méthode de piano très rigolote, on reçoit des lettres de gens, qui me disent « Je viens d'écouter une cassette, ça m'intéresse, mettez-moi en contact avec ce professeur. » Alors, comme l'auditorat de Radio Courtoisie change tout le temps, enfin, augmente tout le temps, je lui ai demandé de revenir. Alors, il est revenu à reculons, mais il est revenu quand même pour nous expliquer comment fonctionne sa méthode que j'ai essayée, dont je me félicite de l'avoir essayé parce qu'elle est très rigolote. Alors, on va tout de suite en venir à l'actualité avec Mgr Sixte de Bourbon-Parme. La première actualité, c'est quand même que vous soyez là, parce que moi qui suis un journaliste bien informé, j'avais entendu dire que vous étiez grabataire, à peu près totalement idiot, voire mourant, voire même enterré, enfin, à la suite d'un terrible accident. Alors, ça, c'est vrai, vous avez eu un accident de voiture terrible. Mais ce qu'on a dit par la suite, ça me paraît quand même à vous voir un petit peu... Comme disait l'autre, la nouvelle de ma mort est très exagérée.
C'est ça, oui. Pour l'enterrement, effectivement, un certain nombre de personnes avaient développé ce fantasme. Je le remets après-demain, si vous le voulez bien.
Oui, il n'y a pas d'urgence.
Pour le grabataire, c'est vrai que je suis resté très longtemps... dans une situation, disons, entre la vie et la mort, il faut le dire. Mais quant à votre troisième définition de l'idiotie, j'étais déjà idiot au départ, je vois pas pourquoi changer après.
Je garderai de couronne le silence prudent. Enfin, on va essayer quand même de faire la démonstration du contraire, et ça va pas être difficile, parce que je veux dire que dans l'univers de l'idée monarchique en France, pour parler très très largement, vous avez été très récemment un des deux personnages de cet univers qui se soit manifesté à propos de la souillure qu'a subie la basilique de Saint-Denis. Et ça m'a surpris, non pas que vous soyez un des deux intervenants, mais qu'il n'y ait eu que deux intervenants. Il n'y a eu que deux personnages de cet univers, de la royauté, vous et Louis de Montbourbon, pour dire que cette occupation était un véritable scandale. Et vous l'avez écrit d'une façon extrêmement vigoureuse à plusieurs autres personnalités de la République et de l'Église qui est en France. Et je voudrais vous poser quelques questions sur ce sujet. Alors la première qui vous concerne directement, qu'est-ce qui a suscité en vous, parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez tellement quelqu'un qui intervient dans les affaires publiques, on vous entend assez rarement. Qu'est-ce qui a fait que là, vous avez décidé de réagir ?
On m'entend de temps en temps, ou on me lit de temps en temps, lorsqu'il s'agit de thèmes qui me paraissent correspondre à ce qui définit à la fois le passé et l'avenir. Je crois que le rôle du prince actuellement, de quelque prince que nous soyons, c'est de répondre à l'obligation qui est celle que nos aïeux nous ont donnée comme mission, si je peux dire, et de répondre à ce passé en construisant un avenir. Nous devons être l'image du souvenir et l'espoir de l'avenir. En l'occurrence, Saint-Denis, c'est cela. Saint-Denis, c'est évidemment le grand caveau royal, mais c'est aussi le signe que la monarchie qui a fondé la France a maintenu par son statuaire, par le dépôt des restes de nos rois, de ce qu'il en reste après que la Révolution soit hélas passée par là. C'est un peu, si vous voulez, l'âme de la France. Quand nous déposons nos proches dans un cercueil ou dans un caveau, ce n'est pas pour les laisser tomber, si j'ose m'exprimer, c'est pour nous recueillir devant eux et réfléchir devant eux à ce que nous devons faire, nous ou ceux qui nous succéderont. Saint-Denis, c'est à la fois évidemment le symbole de la gloire passée de la France, c'est aussi une sorte de symbole significatif et je dirais initiatique de ce que peut être le lendemain de notre pays. C'est pour ça que je n'aurais pas vu d'inconvénient à ce que les sans-papiers se réunissent dans les temples de la République. Ils y auraient été beaucoup plus à leur place. Mais,
vous voulez dire les temples de la rue de Puteaux, de la rue Cadet ou
la rue Soufflot,
Panthéon plutôt.
Je pense qu'on peut penser à ces trois centres-là. On peut penser aussi à ce lieu que M. Mitran a visité en premier, une rose à la main.
C'est ça, c'est le Panthéon.
Sainte-Geneviève.
Voilà, l'ancienne église Sainte-Geneviève. Mais je crois que le Panthéon correspondait plus que Saint-Denis à ce genre de manifestation. Et il y a une certaine lâcheté de la part de l'État à laisser, d'une certaine façon, dégrader et le passé de la France et l'histoire d'une nation, qui est la leur aussi.
Et ce qui est très frappant, c'est que depuis des années, on est devenu d'une susceptibilité officielle très, très à fleur de peau en ce qui concerne les profanations de lieux de mémoire, les profanations de cimetières, les profanations de caveaux, sauf bien entendu quand il s'agit de cimetières catholiques, parce que ça tout le monde s'en fout, mais les lieux de mémoire, s'il y a un lieu de mémoire en France, Saint-Denis me paraît quand même l'incarner parfaitement, et que là, ça n'a paru choquer personne. Je pense que si ça s'était passé, par exemple, au mémorial juif qui est sur les bords de la Seine,
oui,
ça aurait certainement
mémorial des déportés.
C'est, que la mémoire de la France républicaine commence en 89. En 1789, la France n'existant pas avant, tout ce qui peut rappeler son rôle essentiel dans l'Occident doit être négativisé ou complètement gommé. Je pense que c'est une des raisons de l'indifférence de la plupart de nos concitoyens qui ont été, hélas, déformés par certains Michelet et autres succubes de la Révolution française.
Il y a nouveau de plus Orwell, au fond. Tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres, et d'autres ne sont pas égaux du tout.
Oui, comme disait Coluche, il y aura des petits, il y aura des gros, il y aura des maigres, il y aura des riches, il y aura des pauvres, et il y en a qui seront petits, maigres et pauvres et malades, et pour eux, ça ne sera pas rigolo tous les jours.
Oui, bien ça.
Je voudrais pas vous poser une question embarrassante, mais je m'autorise quand même à vous demander si vous avez envie d'émettre une opinion sur le silence que j'évoquais tout à l'heure, le silence qui est tombé là, non pas des étoiles, mais de certains milieux de la succession monarchique. Moi, j'étais étonné par l'absence totale de réaction de nos princes.
Je pense qu'il faut l'expliquer par une distraction générale et par des occupations qui ne sont pas forcément celles des frontières françaises ou qui sont inscrites dans les frontières françaises. Alors je crois qu'il y a effectivement et la distraction et des soucis plus personnels et moins essentiels.
Mais il n'y a donc pas de lieu, de moment où les membres des familles princières se consultent ou se voient ou se rencontrent ou essayent de trouver un moyen d'avoir, je dirais pas un syndicat des princes, mais enfin une espèce de moyen de s'exprimer ensemble pour des motifs aussi élevés. Dommage qu'on n'ait pas la télévision parce que je crois que le syndicat des princes vous avez bien aimé.
Vous voulez. Vous savez, vous êtes en train de faire allusion à une sorte de structure socio-professionnelle dans laquelle nous serions impliqués.
C'est un peu ça. Ça a existé dans le temps, ce genre de choses.
Cela existait lorsque un roi régnant régnait. À partir du moment où, effectivement, la monarchie n'a plus connu la continuité, la légitimité de l'autorité a disparu avec cette continuité. C'est de là, et c'est pour cela, que parmi les lois fondamentales françaises, la clé de voûte qui constituait l'essentiel de ces lois était le principe « le roi ne meurt pas en France ». C'est-à-dire que la légitimité est dans la continuité, hors de la continuité, point de légitimité.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous vous exprimiez assez peu sur les affaires intérieures françaises, et que donc cette position que vous aviez prise à propos de l'occupation de Saint-Denis était quelque chose d'exceptionnel. En revanche, si vous ne vous exprimez pas, vous agissez beaucoup sur le plan international. Vous voyagez énormément, vous avez beaucoup d'activités, vous rencontrez beaucoup de monde.
Un peu. Je proteste
c'est
quand même.
C'est de la diplomatie secrète ou c'est...
Non, pas du tout. Je pratique l'automission. Et c'est encore peut-être la meilleure façon de rester indépendant. Je proteste quand même contre le fait de passer pour ne pas m'exprimer sur la politique en France, puisque un journal aussi important que La Liberté de Sens ou quelque chose comme ça.
Le Sénonais libéré.
Le Sénonais libanais.
Libéré, pas libéré.
voyez le lapsus révélateur d'ailleurs.
Oui, oui.
M'avait interviewé et avait assez mal interprété mes réponses. On avait conclu que j'étais républicain et que la République était la seule formule qui était concevable en France. J'étais assez surpris par les réponses qu'on m'avait...
Oui, ça, j'imagine que ça a dû vous laisser partout à vous.
qu'on Comme m'avait le beurre accordé. Non, mais en réalité, je pense que c'est un peu à travers la politique, et je reviens à votre question immédiate, c'est un peu à travers la politique internationale de la France que nous saurons pouvoir ramener la France à ses responsabilités essentielles. Je pense que depuis Napoléon III, nous avons pratiqué une politique internationale aberrante qui était celle du caniche ou du porte-voix de la Grande-Bretagne, il faut bien le dire, que Napoléon III, qui a été un assez bon administrateur quant à la politique intérieure de la France, a été totalement désastreux dans sa pratique internationale, n'a fait qu'obéir de façon totalement appliquée aux intérêts de Londres. Nous le voyons avec la guerre de Crimée.
Il avait été formaté pour ça, il faut dire.
Il avait été formaté pour ça. Il a même été financé par une charmante maîtresse qui était anglaise à l'époque. Bon. La guerre de Crimée, où ils ont perdu beaucoup d'hommes, elle est totalement contre l'intérêt de la chrétienté, contre l'intérêt de la France. L'unification italienne a été contre les bénéfices de cette fantastique fertilité que représentait chacun des États qui composaient la péninsule italienne et qui faisait que chacun de ces États avait autant d'importance sur le plan économique, bancaire ou culturel que toute l'Italie aujourd'hui, dans l'Europe d'alors. La politique vis-à-vis du Mexique n'a fait que le malheur de l'empereur Maximilien.
De l'empereur lui-même et de sa femme.
Et d'une certaine façon de l'empereur lui-même, je ne parlais pas de sa dernière tentative de la guerre contre la Prusse. Oui. Depuis cette époque, et si je remonte si loin, nous n'avons jamais pratiqué de politique internationale qui soit ni contraire ni même différente, mais au contraire totalement soudée, devrais dire, aux intérêts des chevaliers de Saint-Georges. Et je crains...
Et de leur cavalerie.
Et de leur cavalerie. Et je crains que la France n'en ait pas tiré ni bénéfice, ni profit, ni honneur. Et c'est vrai pour les deux dernières guerres, d'ailleurs. Je constate que dans les guerres postérieures aux dernières guerres mondiales, nous avons pratiqué vis-à-vis de l'Irak, il y a plus de 10 ans, une politique qui allait encore une fois contre notre honneur. L'Irak avait toujours été très favorable à la France sur le plan économique, sur le plan des commandes industrielles et de l'amitié tout simplement. Peut-être est-elle due au fait aussi qu'elle voulait marquer la différence qu'elle pratiquait vis-à-vis de son ancien occupant anglais. Mais l'amitié qu'elle nous a toujours montrée n'a pas été répondue lors de la guerre dont elle a été victime. Et je le regrette extrêmement vivement, connaissant beaucoup l'Irak, ayant été, je crois, une quinzaine de fois là-bas.
Vous avez rencontré le Saddam Hussein ?
Je n'ai jamais rencontré Saddam Hussein. J'étais toujours en conversation avec Tariq Aziz.
Tariq Aziz, qui est un chrétien, il faut le rappeler, parce que...
qui est un chrétien.
C'est important de souligner que le seul pays arabe qui à l'heure actuelle est l'objet de la haine vigilante du système mondialiste, c'est un pays arabe dont le Premier ministre est chrétien.
Vous avez tout à fait raison, chrétien chaldéen, pour être plus précis.
Le parti Baas, c'était un parti fondé par des chrétiens.
Absolument, par Michel Aflaq, qui était tout à fait un chrétien. Et il est tout à fait extraordinaire, vous commenciez à le souligner, j'allais justement un peu m'avancer sur ce terrain, que à partir de l'attentat des fameuses deux tours de New York, un certain 11 septembre et de l'année dernière, eh bien la hargne des États-Unis se soit développée contre tous les supposés pays fondamentalistes, alors que justement l'Irak, comme d'ailleurs sa sœur ennemie la Syrie, qui tous deux obéissent au système des parties basses. Ce sont des bases divorcées, mais ce sont des bases quand même, ont été des pays du Proche-Orient qui se sont beaucoup éloignés de tout risque de fondamentalisme. Nous l'avons vu à Homs et à Hama en Syrie, nous le voyons constamment en Irak. Et il est tout à fait surprenant et scandaleux de constater que ces pays qui prétendent développer ou prendre la tête d'un conflit mondial contre le terrorisme soi-disant musulman s'est attaqué depuis plusieurs années et continue à s'attaquer après celui-ci au seul pays qui faisait frontière, qui faisait cuirasse à son fondamentalisme, qui était l'Irak.
Et vous évoquiez au début de votre intervention là le rôle de caniche ou de porte-coton de la France par rapport à l'Angleterre, un rôle qui est joué depuis que la France est une république. Oui. Et là, on en a encore un témoignage. Je voudrais vous demander si vous avez une opinion sur ce sujet, à travers l'affaire de Sangatte, où on est obligé, les Anglais ayant pris des dispositions législatives pour l'accueil des immigrés qui sont totalement idiotes, et s'en rendant compte eux-mêmes, sont incapables d'interdire leur propre territoire aux étrangers du tiers-monde, et nous demandent à nous de les garder en quelque sorte en conserve pour les empêcher d'entrer chez eux, tout en surveillant bien qu'on va respecter les droits de l'homme et héberger ces gens-là qui ne veulent pas rester en France mais qui veulent aller en Angleterre, les héberger à nos frais, aux frais de nos concitoyens, sous la protection de la police française, de la Croix-Rouge française, etc. Ce qui est une histoire de fou furieux. En réalité, on devrait plutôt les aider à foutre le camp en Angleterre.
Ah mais j'allais vous répondre cela. Moi j'étais tout prêt à pouvoir soutenir le projet d'une intégration de ces sympathiques réfugiés vers une Grande-Bretagne qui n'a pas de raison de les refuser puisque juridiquement et légalement elle s'en trouve en partie empêchée. Nous faire pratiquer le rôle de garde-chiourme évidemment ne nous correspond pas. Je pense d'ailleurs que les chiffres qui ont été avancés à ce propos deviennent assez paradoxaux puisqu'on parlait de 60 000 à un moment donné, que M. Sarkozy nous cite le chiffre de 3 000 actuellement. J'aimerais savoir ce qu'en sont devenus les 57 000 autres.
Français, probablement.
Eh bien,
je n'ai pas d'autre explication puisqu'on dit qu'il n'y a plus d'étrangers. Alors ça, c'est donc il y a des Français.
C'est ce qu'on appelle l'arithmétique migratoire.
Une distribution de papier. Je sais pas.
Vous savez, s'ils devenaient normands, ils pourraient reconquérir l'Angleterre. Ce serait peut-être une formule pour pouvoir trouver une solution définitive à ce genre de situation.
Monseigneur, à l'époque où ils sont en train de migrer de Sangatte vers Cherbourg, j'aimerais que vous n'émettiez pas de vœux pieux sur une normandisation de ces populations-là.
La normandisation n'étant d'ailleurs que très...
Que le préalable à l'embarquement.
C'est ça. Oui, mais l'embarquement risquerait d'être aussi problématique qu'à Sangatte, d'autant plus que là, il n'y a pas de tunnel.
Je crains d'autre part que nous ne trouvions pas de Guillaume le Conquérant pour les diriger.
En ce moment, pas tellement. Ah,
c'est
bon
sens. Pas encore. Surtout qu'il est quand même fort peu probable que l'un d'entre eux s'appelle Guillaume.
Alors, cette idée de rechercher un Guillaume le Conquérant m'inspire une question que... Enfin, m'amène à vous poser une question que je voulais réserver pour la fin, mais je vous la pose tout de suite. Vous avez pris position à propos de Saint-Denis, vigoureusement. Vous avez dénoncé le laxisme des autorités actuelles. Là, à propos de Sangatte, vous prenez aussi une position très vigoureuse. À propos de l'avilissement de la diplomatie française, vous émettez une opinion radicale. Et on voit bien que ce soit sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan politique, diplomatique, la France est dans une situation véritablement de plus en plus catastrophique. Et je me suis permis de faire un petit papier dans le dernier Libre Journal dans lequel je dis, j'ai intitulé le droit sacré à l'insurrection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est trahi, parce qu'on est dans une situation aujourd'hui, on est clairement et simplement envahi et occupé par des puissances étrangères. Ils sont désarmés, mais enfin, c'est une invasion. Et on est trahi à l'intérieur du pays par des gens qui sont des politiciens collaborateurs de l'invasion. À partir du moment où on est au pouvoir de collaborateurs et soumis à une invasion, il y a un droit sacré qui s'appelle l'insurrection. C'est inscrit dans tous les droits les plus sacrés de la personne humaine. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait le rôle de quelqu'un qui est investi par sa naissance de l'autorité, du pouvoir moral, spirituel, qui s'attache à 43, de dire, oui, bien sûr, il y a un droit et un devoir d'insurrection, au moins un devoir d'insurrection morale.
Il vaut mieux pas une insurrection que de révolution, je suis d'accord avec vous. Mais je reviens sur Sangatte. Je n'ai absolument rien contre les malheureux, et je voudrais le préciser, qu'ils sont installés à Sangatte. Il peut y avoir des éléments de qualité là-bas, des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles et qui ont besoin, qui ont droit à l'espoir. Et c'est vrai que dans beaucoup des pays qui constituent leur origine, l'espoir est maigre, l'espoir est rare. On peut totalement comprendre cette espèce de démarche qui rappelle celle des grandes invasions, en plus discrète quand même, parce que tout le monde a droit à l'espoir, eux aussi. Même à l'espoir de conquérir l'Angleterre, je reviens à cela. Insurrection, c'est un concept. Il y a eu aussi dans l'histoire la constitution des grandes compagnies. Et nous avons eu quand même cette formule qui, à la fin des guerres de 100 ans, ont permis à des bandes considérables d'individus sans foi ni loi et totalement incontrôlés, d'être encadrés par des grands chefs, c'est vrai, et d'être menés vers des combats et des conflits qui étaient autant de leur intérêt que du nôtre.
C'était l'amorce de la Légion étrangère, en quelque sorte. C'est quelque chose que vous connaissez
bien. C'était quelque chose qui pouvait peut-être se ressembler au départ à ça, avec la différence qu'il y avait peut-être plus de volontariat dans le cas de la Légion étrangère que dans le cas des grandes compagnies. Mais je pense que il n'y aurait pas que des refus à une esquisse de ce type pour récupérer ces personnes au bénéfice du territoire français, c'est-à-dire au lieu d'installer nos soldats dans le cadre d'une sorte d'office religieux en Afrique ou ailleurs, où on doit faire la paix, on doit
peace and love.
On doit faire les infirmières. Je crois qu'on pourrait peut-être, eh bien, organiser des grandes compagnies qui feraient la paix selon leur concept et qui soigneraient selon leur méthode.
Bah écoutez, moi, je sais pas ce qu'en pensent les participants à cette émission, mais c'est une solution qui me paraît prouver que l'esprit d'innovation et l'intelligence politique sont restés chez nos princes.
Je ne sais pas si c'est un réflexe plus qu'une preuve d'intelligence. C'est tout simplement la mémoire génétique qui se maintient en nous quelquefois.
Vous parliez du Liban tout à l'heure. Vous allez y partir, je crois, prochainement.
Alors, ben, je pars demain. Je pars demain pour Beyrouth.
Alors, est-ce que justement cet atavisme que vous venez d'évoquer joue un rôle dans votre voyage au Liban? Est-ce que vous croyez que la France a encore un rôle à jouer, comme elle a toujours un rôle historique à jouer au Liban?
C'est du moins ce qu'espère un certain nombre de Libanais, qui ont été quand même terriblement déçus, il faut le dire, par l'attitude de la France dans les 20 dernières années. Les Libanais se faisaient une idée de la France, une image de la France qui correspondait à la France royale, à celle qui, même du temps de Charlemagne, et beaucoup plus tard du temps de François Ier, qui a été quand même l'inventeur des échelles du Levant, puis de Louis XIV, a maintenu des relations avec les chrétiens du Mont Liban, qui étaient des relations extrêmement suivies. Et respecté d'ailleurs par la Sublime Porte. Je crains que, lors du drame de cette guerre, qu'on a appelée une guerre religieuse, qu'on a appelée une guerre civile, mais qui était montée peut-être par des puissances étrangères, qui était peu civile et peu religieuse, la France n'ait pas joué là-bas le rôle qu'on attendait d'elle. Et j'ai trouvé que les Libanais ont été extrêmement généreux dans l'oubli qu'ils font de la distraction française.
au moment où vous allez là-bas, on apprend qu'il vient d'y avoir un accord pétrolier entre la Syrie et la Turquie. Pour poser la question en termes que tout le monde comprendra, c'est bon pour nous, ça, d'après vous ?
Le Liban et la Syrie ont connu effectivement des relations conflictuelles et compliquées. Il ne faut pas oublier que quand nous avons été, qu'on nous a attribué le mandat français sur le Liban, la Syrie était plus ou moins impliquée dans ce mandat. Et donc, cela peut expliquer d'une certaine façon l'envie des Syriens de trouver dans Beyrouth une solution de débouché que la Taqiyeh est considérée comme insuffisante.
Ça crée quand même une synergie entre la Turquie, qui est clairement l'allié d'Israël.
La Turquie est clairement, dans le cadre de son gouvernement et de sa majorité actuelle, l'allié des États-Unis, oui. C'est-à-dire des alliés des États-Unis.
C'est le porte-avions oriental.
Et voilà. Donc, on est toujours l'ami de des amis des amis. Bon. Mais il ne faut pas oublier qu'en Turquie, il y a une opposition extrêmement importante, basée principalement à Konya, mais dans toute la Turquie, qui est beaucoup plus fondamentaliste sur le plan religieux qu'on ne le pense, qui d'ailleurs a été en partie est momentanément au pouvoir il y a quelques années et qui peut parfaitement revenir au pouvoir. Ce serait d'ailleurs une circonstance assez amusante de constater que cette alliance à laquelle vous faites allusion entre les États-Unis et la Turquie en particulier, la Turquie et la Syrie pour d'autres raisons, mais cette alliance, c'est une alliance contre nature parce que les Américains ont des vues évidentes sur tous les anciens États de la Grande Russie ou de l'Union soviétique qui allaient juste par le Kazakhstan jusqu'à la Chine. Ces vues sont des
routes de la soie.
C'était la route de la soie, c'est maintenant la route du pétrole. Et du pétrole et de bien d'autres réserves minérales.
Ce sont quand même des régions extrêmement riches en métaux stratégiques.
Le Kazakhstan en particulier.
Oui, le Kazakhstan, c'est quand même 30 à 35% de la production mondiale de chrome, à peu près autant de celle de cobalt. Qui sont des métaux, et c'est le deuxième producteur mondial d'uranium.
Je ne vous le fais pas dire non plus.
Henri, je crois qu'il faut rappeler à ce sujet que le problème du chrome est un problème vital pour tout ce qui est énergie nucléaire, avant même les métaux fissibles pour les auditeurs qui ne sauraient pas que sans chrome, il n'y a pas d'industrie nucléaire possible.
Donc ça ne sert pas qu'à faire des belles voitures.
Par essence stratégique à l'heure actuelle.
Et je tiens à préciser que le premier producteur de chrome en Europe, c'est l'Albanie. À bon entendeur, 3 petits points.
Absolument. Merci pour les 36 points. J'en aurais mis 9, enfin un certain nombre en moins, qu'on aurait trouvé les mêmes résultats. Nous en resterions à 3. Mais l'alliance contre nature, que je trouve contre nature, s'explique très bien entre la Turquie et les États-Unis. Et nous parlons de celle de la Turquie et de la Chine et de la Syrie ensuite. Pourquoi ? Parce que tous ces États du sud de la Sibérie sont des États évidemment en situation économique difficile, mais présentant, comme nous disions tout à l'heure, des réserves importantes, ou en tout cas des espaces par lesquels on peut faire passer ces mêmes réserves. La Turquie a un rôle, peut avoir un rôle prioritaire dans tous ces États jusqu'au Kazakhstan, sauf dans le cas du Tadjikistan, qui parle farsi, donc persan.
Donc il serait plus proche de l'Iran.
Voilà, puisque tous ces États sont turcophones. Alors, l'influence culturelle de la Turquie peut être très importante sur ces États. En revanche, l'influence économique de la Russie, de la Turquie n'existe pas. En contrepoint, les États-Unis peuvent avoir des moyens économiques extraordinaires pour tout cet espace, au bénéfice de cet espace, mais n'ont pas les moyens culturels. Donc, moyens culturels par la Turquie, moyens économiques par les États-Unis, marions-nous.
Voilà. Il ne faut pas non plus oublier, dans le cadre de l'Asie centrale, un troisième larron qui peut apporter l'élément financier, justement, l'Arabie saoudite, qui a financé des programmes de mosquées assez importants dans ces contrées, aux grandes dames de la Turquie, d'ailleurs.
Absolument. L'Arabie saoudite se voit maintenant encerclée. Elle a été l'alliée, la complice des États-Unis du fait de sa monarchie très artificielle et anti-chérifienne d'ailleurs, il faut le rappeler. Mais elle se voit maintenant évidemment encerclée par l'allié d'hier. Les armées américaines sont arrivées dans le Yémen, vous le savez aussi bien que moi. Elles s'installent en Géorgie, ce qui est une double offense contre la Géorgie et contre la Russie. Et je crains que cette situation d'encerclement de l'Arabie saoudite ne termine par la fin peut-être de cette complicité, mais aussi de la qualité quand même culturelle que représentait, et vous me pardonnerez puisque je suis bon chrétien, le wahhabisme. Les wahhabites qui étaient donc la base même religieuse va disparaître face à l'intérêt pétrolier que les Américains ont sur l'Irak, sur l'Arabie saoudite et pourquoi pas sur l'Iran. Or, que se passe-t-il? J'ai des amis qui habitent ou qui vont très souvent dans les États anciennement soviétiques dont nous parlions tout à l'heure et particulièrement le Turkménistan. Ces amis me disent qu'ils sont stupéfaits depuis quelque temps par le fait que les quelques hôtels qui existent là-bas sont totalement remplis par des personnages qui n'ont rien à voir avec un intérêt économique immédiat de ces pays ou commercial. Cela veut dire qu'il y a un encerclement non pas seulement de l'Irak mais de l'Iran et que les deux frères ennemis qui ont été faits ennemis par l'opération, non pas du Saint-Esprit, mais de Washington, il y a quelques années, il y a 25 ans, lorsqu'on a monté la guerre irano-irakienne.
Ce qui est, les Irakiens ont attaqué dans le châtel arabe.
Voilà. Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient le projet suivant. Il fallait réduire la production pétrolière américaine, parce qu'elle avait des réserves qui se réduisaient beaucoup et qui donc risquaient d'être très limitées dans les 25 ans qui viennent. Qui dit produire moins, dit acheter plus. Qui dit acheter plus, dit acheter le moins cher possible. Qui dit acheter le moins cher possible, dit s'adresser à deux types de pays producteurs. Les pays producteurs avec population, les pays producteurs sans population. Les pays producteurs sans population, c'était l'Arabie saoudite, c'était les Émirats. Les pays producteurs avec population, c'était l'Iran, c'était l'Irak. Donc, que faire contre vis-à-vis d'États vis-à-vis desquels nous allons tenter de faire baisser le prix du pays du pétrole? Eh bien, il faut les ruiner. Et pour les ruiner, il faut qu'ils se fassent la guerre l'un à l'autre. C'est l'explication de la guerre irano-irakienne, qui a détruit réellement économiquement ces deux pays.
Et d'ailleurs, c'est assez curieux de constater à quel point les déboires dans ces contrées coïncident avec les mauvaises négociations avec les entreprises pétrolières américaines. Puisque quand Faisal a refusé de renégocier avec Rockefeller les accords pétroliers, il a été assassiné un peu après, six mois après par son neveu. Lorsque le Shah d'Iran a menacé les Américains de rompre les contrats pétroliers et de s'adresser à la France et à la Grande-Bretagne, il a été renversé par l'Ayatollah Khomeini. Quand l'émir du Koweït a refusé de renégocier les contrats avec l'Armaco, il a pris une invasion irakienne quelques semaines plus tard. Je trouve que curieusement, dès qu'un producteur de pétrole commence à s'opposer à Monsieur Rockefeller ou à ses amis, il lui arrive des petits ennuis.
Le secrétaire d'État de Kennedy, comment s'appelait-il?
Lequel, celui de...
Pardon?
Non, pas lui.
Qui donc?
Le ministre des Affaires étrangères.
Le secrétaire d'État aux États-Unis.
Capable de vous dire.
C'était une question à 100 euros.
C'est Kissinger. Kissinger. J'ai retrouvé Kissinger. Kissinger a une conversation avec le roi Faisal à cette époque, puisque vous faisiez allusion à cela. Il en ressort furieux et ne peut pas résister à la sortie de cette conversation d'exprimer à haute voix son fantasme intérieur: cet homme ne vivra pas 6 mois. Dans les 6 mois, il a été assassiné. C'était pour confirmer ce que vous dites.
Et Kissinger est le prix Nobel de la paix.
Ben oui, raison de plus.
Ça montre le sérieux de l'affaire.
D'autre part, et je termine, d'autre part, les États-Unis ne font jamais des guerres ou de guerres quand ils n'ont pas de raison économico-industrielle à la pratiquer. Les États-Unis connaissent une situation économique un peu difficile, des énormes scandales financiers que vous connaissez mieux que moi. Ça a été le cas en 1915-1916, puisqu'ils ont commencé la guerre 2 ans après les autres. Et ça a été le cas, bien entendu, en 1939, conséquence de la crise de 1929. Enfin, en 1941, pardon, puisqu'ils ont commencé la guerre 1 an après les autres. Indiscutablement, actuellement, ils sont victimes, et la bourse américaine le prouve, d'une situation économique difficile. La guerre, c'est la solution de toujours. Cela veut dire industrie d'armement, ça veut dire réactivation de l'économie générale.
Mais le prétexte antiterroriste en Irak est quand même un peu osé, puisque les États-Unis sont actuellement en pleine négociation pour des accords pétroliers avec le Soudan, qui est pourtant un pays... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une certaine sympathie pour les mouvements islamistes. Et d'ailleurs, les Américains ont fait amicalement pression sur le colonel Garang, lui demandant de, si j'ose dire, sacrifier les Dinkas, bien compris, de l'économie américaine.
Alors, nous rejoignons absolument. Une des personnalités qui m'intéresse le plus et que j'aimerais le rencontrer le plus vite possible, et lui-même en situation difficile du fait de ce que vous venez de dire, c'est Tourabi. Tourabi, qui est une des grandes figures du Soudan, qui est totalement francophone, totalement fondamentaliste aussi, mais francophone, mais fondamentaliste avec l'intelligence d'un Sorbonne.
Nobody's perfect.
Nobody's perfect. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Tourabi. Comme par hasard, il a été écarté au bénéfice de la cause.
Monseigneur, est-ce que je peux vous demander, quand vous rentrerez du Liban, de revenir dans cette émission pour...
Vous voulez courir ce risque?
Mais comment? C'est pas un grand risque. Et pour nous dire comment les choses se sont passées et continuer à développer les idées que vous avez développées ce soir, qui sont absolument passionnantes et qui sont un point de vue très original, je trouve, sur la situation et informer. Et on va encore parler de cheval, ça va faire plaisir à Claude, de la bouche du cheval. Donc, j'aimerais bien que vous acceptiez de revenir.
Si vous avez cette courtoisie, cette gentillesse, je viendrai autant que vous le souhaitiez. Et quand vous parlez de la bouche du cheval, je vous parlerai de la bouche d'un cheval qui est extrêmement intéressant parce qu'il est peu connu et que c'est un des plus beaux spécimens qu'on puisse trouver, c'est l'alcatèque.
L'alcatèque,
on le trouve...
Cheval de Mitterrand.
Oui, mais ce n'est pas parce
par d'injure.
C'est une vieille blague.
C'était aussi le cheval du tsar, des gardes du tsar, que l'on développait en Turkménistan et qu'on exporte actuellement vers les Émirats, vers le Maroc, parce que ce sont des chevaux qui ont des allures de cheval arabe, mais des dimensions de persan anglais. Et qui sont d'ailleurs les meilleurs concurrents en résistance qu'on puisse trouver.
Ce sont des chevaux magnifiques.
Monseigneur, ne me regardez pas en disant ça. C'est vrai que la Kalteke est un cheval tout à fait exceptionnel.
Et que vous ne lui ressemblez que de très loin, mon cher Claude de Mouy.
Je ne suis pas en cause. Ce sont des animaux absolument superbes, même si je n'estime pas a priori que la taille soit systématiquement un gage de qualité. On le voit avec les hommes politiques, c'est pas parce qu'ils sont très grands qu'ils sont forcément très intelligents.
C'est pas non plus parce qu'ils sont petits, d'ailleurs.
C'est pas parce qu'ils sont petits non plus, la taille n'a rien à y voir.
Non.
Mais l'alcalteque est un animal superbe, sauf pour François Mitterrand, mais ça n'est pas grave, et qui effectivement, étant une branche un peu particulière historiquement des chevaux arabes, aujourd'hui devient très à la mode de par sa rareté, et uniquement malheureusement de par sa rareté au départ pour tous les gens qui ignoraient qui il était. Mmh. Et je comprends parfaitement que Monseigneur, qui lui a une autre idée qui est liée à l'esthétique et à la qualité de l'objet, ait pu en être séduit, parce que ce sont vraiment des choses exceptionnelles.
Merci en tout cas. Merci Monseigneur. Merci à bientôt donc, à très bientôt. À votre retour.
À très bientôt.
Et... Claude, je vous charge des démarches diplomatiques auprès de la maison de Monseigneur pour faire réaliser ce projet.
Donc, oui, si je comprends bien, il est chef de la maison civile.
Voilà. Alors, il faut que je le ramène ce soir et que je le ramène la semaine prochaine, au moins dans 15 jours, j'ai tout compris.
Voilà. Je suis très très content de voir que les bruits funestes qui ont couru sont totalement infondés.
Totalement, peut-être pas, parce que mécaniquement, je ne suis pas encore dans la forme que j'avais avant, mais dans les 6 mois qui viennent, nous ferons du jogging ensemble.
C'est un plaisir que je vous abandonnerai volontiers.
Je demande à voir ça.
À très bientôt.
Claude, un dernier mot?
Oui, je me permettrai 2 toutes petites remarques. La première, c'est de rappeler que nous ne sommes pas très loin du 16 octobre et qu'à cette occasion, le 13 octobre après-midi, qui est un dimanche bien entendu, à 15h30 aura lieu place de la Concorde, une messe tridentine, bien sûr, à l'occasion du souvenir de l'exécution de la reine Marie-Antoinette, et qu'en cette année, particulièrement après l'affaire de Saint-Denis, il serait bien qu'on soit un peu plus de 300 personnes, comme c'est le cas tous les ans, pour tout de même témoigner de l'existence d'une certaine France du souvenir, et ce n'est pas Monseigneur qui me dira le contraire. Je pense que cette année, c'est important qu'on soit là le plus nombreux. La deuxième, c'est que, je rappelle, et on en reparlera encore, que le 27 octobre, à Trianon, à Versailles, à la suite justement de cette espèce de déliquescence de la cohésion monarchique qui s'est manifestée au moment de l'affaire de Saint-Denis, j'ai souhaité avec quelques personnes créer un mouvement pour que des monarchistes de partout, je dis bien de partout, sans aucune espèce d'obédience, sans recherche de querelles dynastiques, sans, on oublie tout ça, c'est l'idée de base du comte de Chambord, le roi n'est rien, le principe est tout. Est tout. Absolument, Serge.
Fidèles au prince.
Voilà, et j'espère, Serge, que vous serez là, et je pense que vous le serez. Je sais, Monseigneur, que vous avez manifesté le souhait d'y être, et j'espère avoir l'immense plaisir de vous y retrouver. Et je pense que tous ceux qui voudront le faire y viendront, et que s'ils le désirent, ils peuvent laisser leurs coordonnées à Radio Courtoisie, et qu'on leur fournira les éléments nécessaires pour s'inscrire à cette manifestation où nous souhaitons le plus grand nombre de gens possible.
Bravo. Merci, voilà. Merci, Monseigneur.
Le souvenir de la reine nous bénira.
Alors Jean-Pierre Maugendre, le président de Renaissance catholique, je vais vous donner, du coup je te vous souhaite, je suis moi-même abasourdi par...
Tout ému,
voilà, j'en perds mes moyens. Tu as quelques minutes pour nous exposer les bonnes raisons que nous avons de se suivre le 19 octobre, mais seulement le 19 octobre.
Ça pourrait être élargi.
Oui, enfin là, la concurrence est sérieuse.
Bien, donc merci là de me laisser la parole là donc pour présenter notre 12e marche pour la vie, donc qui aura lieu le 19 octobre prochain. Donc cette marche pour la vie est une certaine institution, puisque cela fait 12 ans qu'elle existe. Depuis 2 ans maintenant, nous en avons renouvelé un petit peu la formule, puisque nous faisons une marche au flambeau de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre, donc qui a lieu le samedi soir. C'est pour ça que la date a été un petit peu repoussée dans l'année, pour qu'effectivement il commence à faire nuit. Alors, quelle est l'actualité de cette marche? Ben, je crois qu'on n'en parle plus tellement aujourd'hui. Néanmoins, pendant les mois qui viennent de passer, ben, le combat pour la vie s'est encore développé. Vous l'avez vu dans la presse récente. C'est la légalisation de l'euthanasie qui vient d'être faite d'une part aux Pays-Bas, d'autre part la Belgique. C'est également l'équivalent d'un arrêt Perruche en Italie, qui vient également d'être légalisé par le biais de la condamnation qui a été faite d'un médecin qui avait fait une ligature des trompes qui n'avait pas permis d'empêcher une naissance. Donc le médecin a été condamné. On est tout à fait dans la logique de l'arrêt Perruche. Et puis également, en France, vont bientôt revenir devant le Parlement la révision des lois de bioéthique de 1994. Donc on est vraiment au cœur du sujet, et je n'évoque pas tous les débats qui se déroulent à l'heure actuelle sur le clonage, que ce soit le clonage reproductif, bon, sur lequel effectivement un certain nombre de pays semblent mettre des oppositions fermes, ou même le clonage thérapeutique, qui en termes moral est tout aussi, je dirais, irrecevable que le clonage reproductif. Je crois que nous vivons dans une société où, sur ces questions de défense de la vie, le modèle de société que véhiculent les médias, le modèle de société tel qu'il est de plus en plus soutenu par la législation. C'est un couple homosexuel qui adopte un ou deux enfants du tiers-monde. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est présenté comme le modèle. Et c'est contre cela, bien que nous cherchons à manifester. Alors, je crois également qu'il y a deux opportunités, me semble-t-il, autour de cette marche. La première, vous vous en souvenez peut-être, les ancêtres de l'ancienne UMP avait voté, il y a maintenant 2 ans, contre l'extension à 12 semaines du délai légal d'IVG. C'est-à-dire que cette proposition de loi qui avait été soutenue par Martine Aubry, l'actuelle majorité parlementaire, qui était à l'époque l'opposition, avait voté contre. Aujourd'hui, ils sont majoritaires. Eh bien, je crois qu'un des sens de notre marche, ce sera de leur dire, eh bien, si il y a 2 ans, ce vote contre l'extension à 12 semaines du délai légal d'IVG n'était pas qu'une agitation politicienne, que faites-vous aujourd'hui que vous tenez les rênes et que vous êtes effectivement au pouvoir? Alors on ne peut qu'être frappé de voir que lors de son discours du 14 juillet, le président Chirac a proclamé comme première grande cause nationale la sécurité routière. Alors la sécurité routière, c'est très triste, c'est 7000 morts par an. Je rappelle que l'avortement, c'est de l'ordre de 250 000. On n'est quand même pas tout à fait dans la même cour. Et je crois qu'il y a là quelque chose de prioritaire, effectivement, mais qui semble totalement oublié, totalement occulté par les princes qui nous gouvernent. Et puis je crois également que la Providence faisant bien les choses, je l'ai dit tout à l'heure, nous marcherons d'une basilique à l'autre, et nous avons, ces temps derniers, beaucoup parlé de basilique. Il en a été question encore il y a quelques instants, à l'occasion de l'occupation, si l'on peut dire, mais de l'occupation avec consentement des occupés de la basilique Saint-Denis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la configuration où d'une basilique à l'autre, ce sera plus précisément d'un parvis de basilique à l'autre basilique. Nous avons été très bien accueillis au Sacré-Cœur de Montmartre, comme nous l'avions été l'an dernier, je crois, dans d'excellentes conditions. Le contact avec le recteur s'est très bien passé. En revanche, et je lirai au départ de notre marche le mot que nous avons reçu du recteur de Notre-Dame-des-Victoires, dans lequel nous ne pourrons pas rentrer. Bon, je crois que nous vivons une situation un petit peu abracadabrante, si l'on peut dire, quoi. On peut s'installer pendant 15 jours à la basilique Saint-Denis, et nous ne pourrons pas rentrer dans la basilique de Notre-Dame-des-Victoires. Et puis également, nous pourrons nous poser une autre question. Le 7 septembre, il y avait 10 000 sans-papiers, 10 000 personnes à manifester pour soutenir les sans-papiers, demander leur régularisation. Il y avait 10 000 personnes et un évêque. Serons-nous 10 000 et aurons-nous un évêque? Je crois que ce sont également de bonnes questions à nous poser. Alors, pour ce qui concerne l'évêque, je crois qu'aucun d'entre nous ici présents, et puis je pense peu de nos auditeurs, peuvent avoir un rôle déterminant sur cet aspect de la question. En revanche, sur le fait d'être 10 000, eh bien je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement nous lamenter en nous écoutant et en disant, en préparant le repas de ce soir, « Ah vraiment, c'est incroyable, c'est lamentable, c'est scandaleux. » Bon, tout ça c'est très bien, mais je crains que ce soit insuffisant. Il faut prendre, en préparant ces spaghettis bolognaises, la résolution de venir nous rejoindre le 19 octobre pour être au moins 10 000.
Ce soir, c'est spaghettis bolognaises.
Oh, à mon avis, en termes de probabilité, il y en a quand même quelques-uns qui vont préparer des spaghettis bolognaises. Bon, je crois, voilà un peu le sens de notre combat, de notre témoignage. Alors, je lance un appel à chacun d'entre vous. Donc, ça aura lieu donc le samedi 19 octobre de la basilique Notre-Dame-des-Victoires, où nous nous retrouverons à partir de 17h30. Et puis ensuite, donc, nous monterons pour une procession au flambeau jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre. Et nous aurons donc un salut du Saint-Sacrement dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Je crois que c'est un témoignage de foi. Et puis c'est une prière de réparation, une prière de demande. Eh bien, pour élargir aussi, je crois que c'est une de nos aspirations, plus largement le combat pour la vie. Le combat pour la vie, c'est bien sûr la lutte contre l'avortement, la lutte contre l'euthanasie, contre le clonage, qu'il soit thérapeutique ou reproductif, contre l'eugénisme. Et puis c'est également un combat positif pour le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, pour la protection de l'enfant, également pour le soutien de la dignité de la femme. Alors je conclus également, depuis les 2 années, là nous sommes restés sur le même nombre, j'observe, j'ai souvent l'occasion d'en parler avec beaucoup de nos amis, un désintérêt pour ce combat. Vraiment, je crois que les gens n'en voient pas l'importance. On pourrait aborder, je ne l'ai pas évoqué là, l'aspect démographique. C'est clair que, indépendamment de l'aspect moral, l'avortement a des conséquences démographiques absolument considérables. Et c'est une question de survie. C'est une question de survie pour la France. C'est une question de survie pour la civilisation chrétienne et française.
Il me semble, Jean-Pierre, que c'est aussi une question d'honneur. Pour beaucoup d'entre nous, si nous pouvons le faire, de manifester notre conviction, quelles que soient nos faibles chances de succès. Quand tout est perdu, il faut pouvoir dire tout est perdu, fort l'honneur.
Tout et puis fait. Au moins, on a tout fait. Enfin, moi, il faut pouvoir se dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Bon. Et là, en l'occurrence, défilé de Notre-Dame des Victoires, la basilique du Sacré-Cœur.
Alors, ce que l'on, ça paraît pas insurmontable.
C'est une belle promenade dans Paris.
C'est une belle promenade dans Paris. Alors, je crois également, souvent, des gens nous posent la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques, etc. Il n'y a aucun risque. Ça est la 12e, nous n'avons jamais eu, bon, alors, on ramasse quelques œufs, jetés du haut des immeubles, on sait très bien où. Bon, mais ça n'est rien. Les gens peuvent venir, en famille. Je crois que c'est une ambiance bon enfant de ce que nous sommes. Et puis c'est un combat, Monsieur l'abbé de Tannoir l'a bien dit, c'est un combat pour l'honneur de Dieu. Pour l'honneur de Dieu, nous pouvons également méditer, là c'est une phrase de Jean-Louis Lagor que j'aime bien, hein, ce n'est pas l'espérance de la victoire, mais c'est la nécessité du combat qui fait le combattant chrétien. Voilà, ça me paraît très, très important. Autre signe, je me permets de faire appel à vous, hein, nous observons depuis 2-3 ans, je l'évoquais à l'instant, régulièrement, nous restons sur le même nombre de participants, mais une décroissance régulière des dons qui sont faits à l'occasion de cette marche. Alors, pour faire des tracts, pour organiser, il y a un certain nombre de frais, pour envoyer un postage. Bon, malheureusement, tristement, douloureusement, je crois on observe une diminution du zèle, malgré les exemples admirables, je sais qu'il viendra tout à l'heure, donnés par des gens comme le docteur Dor, et ben ce combat n'est plus d'actualité. Je crois qu'il reste d'actualité, parce que c'est la survie de la France, c'est l'honneur de Dieu, c'est 250 000 enfants.
C'est pas un sujet sur lequel on peut faire du zapping. On me dit, oh, mais encore dans ton émission, docteur Dor, ou encore... bon, ça va, on a compris. Non, on n'a pas compris. Tant qu'on n'aura pas fait abolir cette loi criminelle, on n'aura pas compris.
Voilà. Serge a complètement raison. Donc, je vous rappelle, le 19 octobre, donc à partir de 17h30, donc de la basilique Notre-Dame des Victoires, donc au métro Bourse, jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre, où nous arrivons à 20h. Je vous donne également l'adresse de Renaissance Catholique, si vous souhaitez que l'on vous fournisse des tracts. Donc, Renaissance Catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux. Et je vous donne également le numéro de téléphone, en voyant qu'aujourd'hui on a un petit problème sur le répondeur, mais bon, on espère que ça va être réparé rapidement. Donc au 01 46 62 97 04. Voilà, je crois que c'est une action concrète que nous pouvons tous mettre en œuvre pour la France et pour l'honneur de Dieu.
Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Maugendre, président de Renaissance Catholique. Belle œuvre, belle œuvre. Moi, je vais tous les ans à l'université d'été. Elle était bien encore cette année, c'était au château de Villepreux, qui est un endroit somptueusissime, tenu par des gens d'une qualité rare. Vraiment.
Tout à fait.
J'espère qu'on recommence l'année prochaine.
Si c'est possible, nous sommes assez partis.
Non, mais même ailleurs. mais à cet endroit-là, c'est vraiment exceptionnel. Ça. Si vous avez une fille à marier... Parce qu'on fait des mariages là-bas,
hein. Ah oui,
ou même un garçon.
C'est très bien.
Enfin,
oui, généralement,
de notre temps, mais de notre temps, c'était les parents de la fille qui payaient le mariage.
C'est vrai. Je crois que c'est encore vrai, ça.
Ah bon?
Ah oui.
Ça marche, j'ai deux fils. Enfin, il y en a un qui est marié déjà, donc le deuxième, faut que je choisisse bien. Bon, ça va.
Merci Jean-Pierre. Serge, bonne soirée.
Monsieur l'abbé, merci d'avoir fait preuve d'une telle patience, mais je sais que ça fait partie des grandes vertus que vous pratiquez, la patience.
Oui, là je dirais que c'est plutôt les contraintes du métier. Et Serge, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je connais quelques personnes qui
doivent s'impatienter
en ce moment et qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait encore à parler derrière un micro, alors qu'en fait je crois que c'est quand même
ça peut servir.
C'est quand même très important de faire savoir.
Alors vous avez donc organisé pour le week-end prochain, enfin pour 3 jours de la fin de la semaine, vendredi, samedi et dimanche, c'est ça?
C'est ça.
Je veux dire un colloque.
Oui, alors on appelle ça
du concile,
on appelle ça un symposium. Alors un symposium, c'est en grec, c'est un endroit où on boit ensemble. Ouais. C'est une potion, donc.
Bah,
mais c'est un mot. Voilà, c'est ça. Donc ce sera quand même quelque chose de très agréable. Et alors justement, c'est pas du tout un procès, parce que ça, ce serait, si vous voulez, moi je suis pas le Saint-Office. Il y en a qui ont non, il y en a qui ont effectivement cette vocation sacrée, mais c'est pas la nôtre. Nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur un tabou, je crois on peut le dire, qui est le Concile Vatican II. Alors le Concile Vatican II est évidemment disponible dans toutes les librairies, il ne fait l'objet d'aucune interdiction, c'est pas ce que je veux dire. Mais cet énorme opus de 2000 pages, bah, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand monde qui le lit. Et même les prêtres, dont c'est l'office, ou dont ce serait l'office, restent assez loin de ce texte. Alors quand il a été publié, entre 1962 et 1965, on fête donc le 40e anniversaire, quand il a été publié, il y a eu une sorte d'effet massue, si vous voulez. Bon, parce que bah, c'est 2000 évêques, c'est l'Église, il y a une autorité, et donc on s'écrase. Et même les adversaires du Concile, même ceux qui au sein du Concile avaient tout fait pour ne pas laisser triompher la majorité conciliaire, même ceux-là se sont tués un moment. Je crois que 40 ans après, alors que les grands acteurs du Concile ont disparu, alors que plus aucun des grands théologiens du Concile n'est là pour tirer la couverture, le texte acquiert une sorte d'objectivité et qu'on peut travailler. Alors c'est ce qu'on va faire. Et donc c'est la première partie de ce symposium. Bon, j'espère bien qu'on va boire aussi, parce que on est là deux jours, et donc la tradition platonicienne du sum potion ne se perdra pas tout à fait, au moins sous cet aspect.
En tout cas, j'espère qu'on ne fera pas subir le sort que les princes avaient fait subir au conclave, qui n'arrivait pas à se décider pour.
Ah bah oui, c'était une manière, justement, on coupait les vivres.
C'était Grégoire, non?
C'est pas Grégoire II. Ça, c'est arrivé plusieurs fois.
Alors, les conclaves, on avait retiré le plafond, en plus.
On coupe les vivres, et puis, finalement, le résultat arrive assez rapidement. Et donc là, on va travailler. On va travailler pendant deux jours. Il y a 70 personnalités qui viennent du monde entier. Et je crois que c'est vraiment une première, si vous voulez. Parce que, comme je vous le disais, c'est une sorte de tabou, Vatican II. On n'ose pas, le lire comme un texte objectif. Alors que je pense que 40 ans après, il est temps de le lire comme un texte, comme on lirait n'importe quel texte. D'autant plus que c'est un concile qui a dit lui-même qu'il n'avait pas l'autorité d'un concile. Oui, qui a dit lui-même qu'il était pastoral, qu'il répondait à l'actualité, etc. Donc je pense que maintenant,
Il y a une autre dimension qui me paraît rendre cette initiative particulièrement heureuse. C'est que vous allez pour la première fois ouvrir le débat à front renversé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la tradition a toujours été en position défensive. Elle a toujours, dans les débats comme ça, la position de la tradition, ça a toujours été de dire, mais nous ne sommes pas des réactionnaires, nous ne sommes pas des passéistes, nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas en désobéissance, nous ne sommes pas hérétiques, et il y avait donc une espèce de, une aberration, un illogisme extraordinaire. Il y avait une situation qui faisait que vous étiez obligé de vous défendre contre un système qui vous était postérieur, en quelque sorte.
C'est malheureusement
légitimité.
C'est le sort souvent des minorités, bien
oui,
sûr. Hein.
Mais une légitimité postérieure, c'est quelque chose qui est créé après et qui vous dit, alors maintenant, justifiez ce que vous avez été jusqu'à présent, ce qui est quand même assez énorme.
On n'est pas dans le système, donc effectivement, on est en position d'accuser.
La royauté en accusation. Ouais. Et là, pour la première fois, donc des spécialistes de toutes ces questions vont se réunir en disant, bon, alors maintenant, considérons ce que le Concile... Quels sont les fruits du concile, puisqu'il paraît qu'il faut juger l'arbre à ses fruits.
Oui, alors c'est même pas quels sont les fruits du concile, parce que ça, je pense que c'est pas soumis à débat. Enfin, je crois que les fruits du concile, ils sont très clairs, et que on peut avoir recours tant à des historiens qu'à des sociologues. Moi, d'une manière très proche, je pense au diagnostic de Jean de Vigry, hein, qui dans la Nouvelle Revue Certitude a écrit un article sur la déchristianisation. Vous savez que Jean de Vigry est un historien du passé, mais c'est aussi un historien du présent. C'est un homme auquel rien d'important ne reste étranger. Et tous les 10 ans, à peu près, me dit-il, il écrit un article sur les progrès de la déchristianisation, ce qui est assez terrible. Le dernier article qu'il a donné en 2000 est un article passionnant parce qu'il prend en compte justement ces années de l'après-concile. Et il explique que le concile, au regard de l'historien, c'est-à-dire dans une pure, je veux dire un gros mot, les auditeurs me pardonneront parce que c'est une déformation professionnelle, dans une pure phénoménologie, dans une pure observation, le concile apparaît comme une nouvelle religion. Il y avait une religion avant le concile et il y en a une nouvelle après. Voilà ce qu'on peut dire simplement avec les moyens de l'observation. Alors maintenant, nous, notre question, c'est est-ce que les textes confirment cette observation? Est-ce que quand on regarde les textes sans préjugés, sans tabou, on peut voir affleurer cette nouvelle religion? Et là, je voudrais dire une chose. Moi, j'ai longtemps cru que Vatican II était un peu ringard. Et c'est vrai que dans certains discours, il y a une phraséologie, il y a un côté un peu ampoulé, si vous voulez, du pape Paul VI. J'espère que je choquerai personne, mais ceux qui peuvent le lire, ceux qui le lisent,
c'est l'époque en plus.
Vérifieront. Il y a vraiment, oui,
le style post-marxiste de l'époque, dans
peut-être.
Non, mais c'est ça. On pourrait dire post-Mussolinien.
Oui.
Il y a cette espèce de grande architecture lourdasse. Et dans le discours, c'était pareil. Je me souviens des discours humanitaro.
Voilà, exactement.
Bénévolants qu'on avait dans
tout le monde. C'était une grande éloquence terrible, ouais. Plein d'illusions, etc. Je me disais, ça marche
monde,
plus. Et en fait, je dois confesser que je me suis trompé. Je ne pense pas du tout que Vatican II soit quelque chose de dépassé. Je pense au contraire que l'approche du concile est assez génial et donc assez, extrêmement pernicieuse. Pourquoi ? Parce que Vatican II anticipe sur la mondialisation. En fait, la grande idée du concile, c'est une idée qu'on trouve chez certains gnostiques. Serge, ça va vous faire plaisir parce que je crois qu'il y en a qui disent que
voilà. Bon.
C'est une idée qu'on trouve aussi au début de la franc-maçonnerie. Là, je pense au discours de Ramsay en 1734. C'est que l'humanité doit s'unir, et doit s'unir matériellement et spirituellement. Alors l'idée des pères conciliaires, c'est celle-là.
Oui,
et là, on est en plein dedans.
C'est ce que, il faut quand même reconnaître une chose, quoi qu'on puisse penser de lui par ailleurs, je parle en général, moi j'ai pas d'idée particulièrement désagréable à son endroit, l'abbé de Nantes, quand il a été le premier à définir ça d'une façon extraordinairement... éloquente,
percutante
oui, quand il a dit absolument. Le MASDU, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, le MASDU, dès le début du concile, il a dit ça, enfin dès les conclusions des travaux du concile, il a dit voilà, on met en place le MASDU qui est
et alors pour les auditeurs qui seraient un petit peu scrupuleux, parce que ça arrive le scrupule dans la vie spirituelle et qui peuvent se dire mais comment ils peuvent se permettre d'attaquer ainsi je veux dire à bride abattue un texte aussi respectable, eh bien je dirais que cette idée du MASDU, cette idée de l'unité spirituelle du genre humain, elle se trouve dès le premier paragraphe de la constitution conciliaire la plus importante, qui est la constitution sur l'Église, sur la définition de l'Église, qui est la constitution qu'on appelle doctrinale. Donc, si vous voulez, elle se trouve en tête de la doctrine, pour résumer, du concile. Noir sur blanc, hein, le but de l'Église, l'Église est plus exactement, l'Église devient un moyen pour l'unité spirituelle du genre humain. C'est écrit. Alors, c'est très actuel. Je dois dire que c'est très actuel.
En même temps, comme vous le disiez, c'est extraordinairement pernicieux parce que on peut dire que oui, bien sûr, c'est ça. Quand le Christ dit « Allez enseigner les nations », il met en route un processus d'unification spirituelle de l'humanité.
Alors, Serge, je vous réponds non. Je réponds non et bon, c'est un peu terrible. Hein, je vais passer pour le... je rassure les auditeurs, j'ai rien d'un inquisiteur, même pas en culotte courte. Je suis en soutane.
Non, c'est pas la mauvaise réputation que vous en avez, donc mais pas
celle-là. Bon, non, mais il y a qu'à regarder le porche de nos cathédrales, hein, sur l'unité spirituelle du genre humain. Qu'est-ce qu'on voit au porche des cathédrales? On voit le Christ qui juge les vivants et les morts, et à sa droite, il y a les bons, et à sa gauche, il y a les méchants. Donc, bon, c'est quelque chose de très simple qu'on trouve dans l'Évangile à chaque instant. Hein. J'étais pauvre et vous m'avez secouru, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Ou bien, j'étais pauvre et vous ne m'avez pas secouru, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. L'unité spirituelle du genre humain, elle n'est absolument pas annoncée par l'Évangile. Ce n'est pas une notion évangélique. Et je vous avoue que,
en tant que, bon, je suis un peu universitaire, philosophe sur les bords, etc. Et j'ai cherché l'origine
les
de ça.
Les bords sont larges, on peut dire quand même là, en l'occurrence. Bon,
j'ai cherché l'unité de l'origine de cette idée, parce que ça peut pas être dans l'évangile, c'est pas dans l'évangile. J'ai discuté avec des grands théologiens, des jeunes et grands théologiens actuels, et je leur ai dit ça comme ça. J'aurais dit, écoutez, mais où est-ce que vous trouvez ça? Pas de réponse. Même en public, pas de réponse. Cette idée de l'unité spirituelle du genre humain, elle n'est pas dans l'évangile. Alors elle est où? Eh bien, effectivement, Serge, il faut dire que c'est une idée d'origine gnostique. C'est évident. Et ça ne peut pas non plus être le XVIIIe siècle. J'en parlais avec Xavier Martin, qui est donc spécialiste du XVIIIe siècle et que sans doute les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, et qui me disait, mais non, au XVIIIe siècle, il n'y a pas du tout l'unité spirituelle du genre humain. Au XVIIIe siècle, il y a les intellectuels et l'aristocratie d'un côté, et puis les minus sabins de l'autre.
Mais ça vaut pour la mission de l'Église, mais ça vaut pour toutes les activités humaines. Quand vous imaginez que dans le XXe siècle, bien avancé déjà, Léon Blum, qui n'était quand même pas l'incarnation du fascisme en France, hein, pouvait dire « c'est le devoir des races supérieures d'apporter la connaissance et la sagesse aux races inférieures », je veux dire par là qu'à l'époque, la structure mentale des gens qui considéraient le monde, elle, c'était une structure verticale et hiérarchique.
Oui, mais alors je pense que chez Léon Blum, une telle formule provient en profondeur d'un matérialisme, si vous voulez.
Oui, j'entends bien, mais dans la mentalité...
La notion de race supérieure et de race inférieure, qui est tout à fait en vigueur au XVIIIe siècle, chez tous les penseurs des Lumières, etc., soi-disant émancipés et en route vers l'avenir de l'humanité en fleurs, cette notion, elle est présente. Il y a un antisémitisme de Voltaire qui est terrible, qui n'a d'égal que son antichristianisme.
D'ailleurs, on comprend pas pourquoi
il y a un antiracisme. Enfin, les jaunes se font traiter de mongoliens, etc. C'est monstrueux.
Dans la Révolution française, il y a même, je ne sais plus quel docte penseur de la Révolution avait déclaré que les Vendéens appartenaient à la race des bas poitevins qui étaient considérés comme la plus proche de l'animal.
Il y a un véritable génocide vendéen. Je pense que là, Reynald Séché l'a abondamment démontré. Et au nom d'une sorte d'infériorisation de quiconque ne participe pas au contrat social. Pour être un homme, il faut être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas un homme. Alors, qu'un sang impur abreuve nos sillons, ouais, c'est ça.
Monsieur l'abbé, je voudrais vous poser des questions, si vous permettez. On en revient après, mais il y a des questions, des points de détail qui nécessitent votre intervention rapide. Quel est ce texte de Ramsay? Demande un auditeur.
Alors vous le trouverez, moi je réponds immédiatement. Vous le trouverez dans la dernière édition d'un ouvrage qui s'appelle « Fils de la veuve » et qui est publié aux éditions de Chiré, qui a pour auteur Jean-Claude Lozachmer. Voilà, j'ai lu ça dernièrement et je le livre tout frais aux auditeurs. Donc ce livre est très intéressant.
Alors, comment expliquez-vous la levée d'anathème réciproque entre Rome et Constantinople et le baiser de paix de Paul VI au patriarche Athénagoras?
Alors, la question des orthodoxes est une question qui est très particulière. Mais le problème, c'est qu'elle prend place dans un contexte extrêmement malsain.
Très politique.
Très spirituel, ce contexte de l'unité spirituelle du genre humain. Autant je pense que les orthodoxes, si vous voulez, on l'a toujours reconnu, ont des sacrements valides et qu'il y a un énorme quiproquo historique qu'il faudrait arriver une bonne fois à vider, pour progresser, parce qu'enfin la messe des orthodoxes est une messe valide, il prie la Sainte Vierge, bon. Et autant, effectivement, dans l'atmosphère que Paul VI a donnée à cette rencontre avec Athénagoras, on est en pleine repentance. Et on est dans un esprit qui est l'esprit de l'unité spirituelle du genre humain, où l'Église catholique abdique de ce qui fait sa spécificité, de ce qui fait sa beauté, et qu'on va déposer cette abdication au pied d'un patriarche orthodoxe parce qu'on est un peu pervers.
Alors, puisqu'on parle d'orthodoxie, une question à propos du Saint-Esprit... Vous pensez certainement que le Saint-Esprit inspire l'Église, et vous devez donc accepter le Concile, même si cela ne vous plaît pas, nous dit un auditeur.
Alors je remercie beaucoup cet auditeur d'avoir posé la question, parce que je suis persuadé qu'énormément d'auditeurs se la posent. Et effectivement, le Saint-Esprit guide l'Église. Maintenant, de quelle manière, il nous appartient pas forcément de le dire. Ce qui est sûr, c'est que on a, grâce à des définitions précises antérieures, un certain nombre de critères, si vous voulez. Il faut qu'il y ait... le Saint-Esprit parle d'abord dans la tradition. Et je pense que vraiment la tradition est la patrie véritable de tout chrétien. Et en dehors de la tradition, je vois pas le Saint-Esprit s'exprimer. Pourquoi ? Parce que la tradition, c'est la tradition du Verbe. Et que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils autant que l'Esprit du Père. Je suis désolé de faire un peu de théologie comme ça sur un... peut-être un peu en restauration rapide.
C'est aussi la faste théologie.
Non, mais il faut que les auditeurs comprennent bien que effectivement le Saint-Esprit ne peut pas être séparé du Fils de Dieu dans la Trinité, parce qu'on n'est pas du tout polythéiste, on ne croit pas en trois dieux, quoi qu'en disent les musulmans. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils.
Qu'en pensent les musulmans ? Moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en direz, mais moi ça m'indiffère profondément.
Ah moi non,
ça ne m'indiffère pas.
Parce que malheureusement, ils pèsent de plus en plus lourd en France, enfin, bon, qu'il faudra bien...
Qui pense que nous sommes polythéistes parce que nous adorons un seul Dieu en trois personnes et qu'en plus on va déposer des fleurs devant la statue de Sainte Jeanne d'Arc, ça me dérange pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, bon, voilà. Et puis une dame qui dit, Serge de Wekech, pourquoi n'avez-vous pas annoncé vos invités en début d'émission ? Alors, je vais répondre comme les rabbins à une question par une question. Madame, pourquoi n'avez-vous pas écouté le début de l'émission ? Voilà. Donc, revenons à ce symposium.
Voilà.
De la gare d'Austerlitz.
Alors, il y a effectivement deux parties. Oui, j'espère que ce ne sera pas le sommeil d'Austerlitz. Oui. Et en tout cas, je voudrais pas, si vous voulez, que cet effort que nous faisons vers les textes provoque le sommeil. Ça, c'est ma grande préoccupation. Je préfère le soleil au sommeil. Et donc, il y a deux parties dans ce symposium. Il y a une première partie, si vous voulez, où les participants sont tous intervenants. Et donc, on travaille entre participants intervenants. Il y en a 70, comme je vous le disais tout à l'heure, de toutes les même de tous les continents qui viennent. On verra à rendre public ses travaux ensuite, mais ce qui se passe donc le vendredi et le samedi à huis clos, on va déjà en rendre compte rapidement le dimanche à Austerlitz. Voilà, donc à l'espace Austerlitz, pour toutes les personnes intéressées par une approche à la fois respectueuse de l'Église, de sa hiérarchie, et respectueuse des textes tels qu'ils sont. Ce qui me semble que ce n'est pas respecter l'Église que de faire dire aux textes autre chose que ce qu'ils disent, de prétendre y voir une grande apologie de la tradition quand c'est l'inverse, par exemple. Et je trouve que beaucoup de chrétiens obéissant officiellement à Rome, officiellement au pape, ont ce travers, ont ce défaut de faire dire aux textes n'importe quoi pour protéger leur obéissance. Il faut accepter de regarder le concile tel qu'il est. C'est pour ça que je crois que 40 ans après, il est temps. Et donc si des gens sont intéressés par cette manifestation, qu'ils n'hésitent pas à venir dimanche à partir de 14h à l'espace Austerlitz. C'est donc, je crois, 38 quai d'Austerlitz dans les sous-sols, mais ce sera c'est assez clairement indiqué, puisque l'espace Austerlitz sont des grandes salles. Pour entendre, je crois, un discours qui n'est pas très habituel. Et Serge, je vous remercie d'avoir bien compris ce que nous faisions. Nous choisissons le terrain cette fois-ci. Autant, effectivement, longtemps, la tradition catholique a été sur la défensive, autant nous souhaitons, en tout respect, et respect de l'Église, respect du pape, nous souhaitons reprendre l'offensive et représenter pour l'honneur de l'Église une contestation face à la mondialisation religieuse qui s'est emparée des esprits et qui est un véritable chancre, et je dirais, et je l'ai défini ainsi, une nouvelle religion.
Il y a une question qu'on m'a demandé de vous poser et qui vous étonnera pas quand vous en connaîtrez l'auteur. C'est Louis Hubert Rémy. Il m'a dit, oui. je voudrais que vous demandiez à l'abbé de Tannoir pourquoi, parmi les personnalités qui ont été invitées à ce symposium, il n'y a pas de représentant de ce qu'on appelle. Alors là, ouvrez les gros guillemets et refermez-les derrière vous pour pas faire de courant d'air. les CD vacantistes, c'est-à-dire les gens qui considèrent que le pape n'a pas été légitimement porté sur le trône de Saint-Pierre, et qui n'auraient pas posé cette question-là, parce que pas directement dans le débat, mais qui avaient des questions, me semble-t-il, celles qu'il m'a signalées en tout cas, qui me paraissaient au moins des questions intéressantes. Par exemple, la question, je crois que c'est, est-ce que c'est Monseigneur Titien de Malray ou qui a dit la messe, cette messe est mauvaise, la nouvelle messe.
Oui.
Alors la position de Rémy, c'est de dire comment une messe peut-elle être mauvaise? Ou c'est une messe et elle est bonne, ou c'est pas une messe, tout simplement.
Alors écoutez, voilà. Nous, notre objectif.
Je reviens à la première question. Pourquoi ne l'avez-vous pas?
Oui, oui. Notre objectif n'est pas du tout de présenter ce genre de conclusion. C'est une première chose. Nous, on essaye d'étudier. C'est, je dois dire, le mandat que j'ai reçu de mes supérieurs, de la Fraternité Saint-Pilis, de produire une étude objective du texte. Après, qu'est-ce que l'étude vous fait? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est pas la question du jour. Et je crois qu'il faut pas tout mélanger.
D'accord.
Et que, encore une fois, ces 40 ans de distance vis-à-vis du texte du Concile permettent l'objectivité. Et que c'est donc cette objectivité que nous voulons, lire le texte et ne pas nous poser de questions annexes. Quant au fond de la question, puisque je crois que j'étais déjà venu une fois sur votre antenne pour
en
parler.
Je vous propose de vous y réinviter si vous acceptez.
Et très volontiers. Quant au fond du texte, je crois que les CD vacantistes mélangent tout. Parce que le vrai problème, c'est pas le problème de l'autorité du pape. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, avec cette nouvelle religion instaurée par Vatican II, cette nouvelle identité chrétienne, cette espèce de post-christianisme, si vous voulez, qui a pour but l'unité spirituelle du genre humain sur la base de la conscience reine, avec cette nouvelle religion, eh bien, on ne peut pas s'en prendre seulement au pape. Il faut bien considérer que c'est l'ensemble de l'Église qui a du mal à coïncider avec elle-même.
Si j'ai expliqué ça. Rassure, je ne s'en prennent pas qu'au pape. Ils en ont
oui, mais justement, c'est beaucoup trop limité parce qu'ils attaquent une personne. Et ils en font des volumes.
Moi, ce que je vous propose, c'est
d'en débattre avec... L'Église est en état de schisme. Il est de plus en plus difficile d'être aujourd'hui totalement et sincèrement catholique. Parce que si on veut être fidèle à la tradition, et en particulier à la tradition liturgique, mais aussi à la tradition théologique, on se fait crosser, on se fait taper dessus. Donc, on perd l'autorité. Et d'un autre côté, si on veut être fidèle à l'autorité de l'Église, on perd la foi petit à petit. Et les églises vides partout en sont l'illustration éloquente.
Je vous propose de...
Donc ça, c'est ce que j'appelle l'état de schisme. L'Église est en état de schisme.
Je vous propose d'en faire le sujet d'un débat.
Mais ce n'est pas le sujet du symposium.
J'ai bien compris. Donc ça, on le reporte à une date ultérieure. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vous inviterai. On a essayé de faire ça une fois, ça n'avait pas très bien marché. J'aimerais qu'on réessaye avec Rémy. Et moi, je garderai le silence dans cette... Je voudrais que ce débat se crée, que la discussion se crée pour voir s'il y a quelque chose à en tirer, si ça peut être utile aux âmes, tout simplement. Voilà.
Je pense qu'il faudrait, à ce moment-là, parce que le débat est extrêmement brûlant, il faudrait que nous le préparions
Entendu.
Un tout petit peu. Je ne dis pas non.
D'accord. Alors, donc, en attendant, donc ces 3 jours de symposium, ça se passe.
Alors, les 3 jours se passent d'une part à l'Institut universitaire Saint-Pilis, rue du Cherche-Midi, pour la partie à huis clos le vendredi et le samedi, et d'autre part à l'espace Austerlitz, quai d'Austerlitz, le dimanche à partir de 14h. Et là, donc, les auditeurs auront un certain nombre de communications dont j'espère qu'elles ne seront pas rasoires. J'ai demandé, par exemple, à M. Labbé Laguéry, qui
risque de Porto, pas être rasoir, alors,
de nous faire une sorte de résumé ou de synthèse, si vous voulez, des travaux du symposium.
Très bien. Alors, ça sera publié dans Pacte par la suite. On fait la coupure technique et puis on donnera l'adresse de Pacte après pour que les auditeurs puissent...
Merci Serge, et je salue les auditeurs. Je suis vraiment obligé de partir.
Voilà, nous sommes de nouveau à l'antenne. Alors, d'abord, je vais vous faire des annonces, car j'ai beaucoup d'annonces ce soir et j'ai peur de ne pas avoir le temps de les faire à l'issue de cette émission. La première annonce que je voudrais faire, ce sont des remerciements. Remerciements à Anne Brassier qui a organisé dimanche dernier une manifestation intitulée « Lire sous les pommiers » avec notre excellent camarade Fersan qui était là. Vous étiez content, vous avez bien mangé des bonnes pommes, Henri ?
Écoutez, mangez des pommes. Voilà. Moi, je me méfie quand on demande de manger des pommes. Le serpent nous a déjà fait le coup. Hein.
Alors, il y avait plein de monde. C'était absolument délicieux. Il faisait un temps d'abord merveilleux. Le lieu était un enchantement. Petite maison cachée dans le bocage avec un âne. J'ai cru d'abord que c'était un flic des RG qui était venu nous surveiller, mais je suis allé lui tirer la queue. Non, en réalité, c'était un vrai âne. Je pensais qu'il était déguisé. Et puis, il y a eu du monde, les gens sont venus gentiment, ils sont venus, on était tranquilles, on a pu parler, on était au bon air, alors qui y avait-il? Il y avait, j'ai cité Fersan, mais il y avait Vladimir Volkov,
Dominique Vénère,
il y avait une dame.
Francis Bergeron,
bien sûr. Malheureusement, le petit, ce charmant garçon qui était chez Ogi, comment s'appelle-t-il?
Benoît Mancheron.
Mancheron, qui devait venir, n'a pas pu être là parce qu'il était souffrant. Jean Mabir n'a pas pu venir parce qu'il était souffrant aussi. Et on était bien tristes de ne pas les voir. Mais l'ambiance était merveilleuse. Et il y avait une dame qui s'appelle Madame Armelle Barguillet-Haute-Loire, ce qui est un nom magnifique. Alors elle m'a glissé dans la main un livre intitulé « Proust ou la recherche de la rédemption ». Alors je me suis dit, dis donc, oulala, quel coup de rasoir ça doit être. Parce que Proust, moi je suis pas un fanatique. Et puis Proust ou la recherche de la rédemption, j'ai dit mon ami, bon, enfin quand même comme elle avait eu la gentillesse de me le donner, je l'ai lu. Et alors c'est une petite merveille. Je dois présenter des excuses à toute l'assistance publique parce que c'est joliment écrit, c'est plein de petites anecdotes. Et puis c'est intelligent. J'ai envie de lire Proust. C'est malin, hein, parce que dites donc, c'est un peu long quand même. Enfin. Donc, je vous signale l'existence de celui qui est paru en plus aux éditions de Paris. C'est un tout petit bouquin, on aurait appelé ça un opuscule, une brochure il y a quelques années. Ça fait 90 pages. Mais c'est une merveille d'intelligence et de joliesse. Et puis, dans la même collection, on voit quand même que c'est une collection bien fréquentée, puisque il y a un livre consacré à Solzhenitsyn et un autre à Chesterton, l'admirable Chesterton. Donc, je crois que si on veut connaître Proust, c'est très original comme point de vue. Très, très original. Il faut améliorer cette connaissance de Proust par ce livre sur le rapport de Proust avec cette recherche inattendue chez un homme comme Proust, qui est la recherche de la rédemption. Voilà, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un à propos des...
Il y avait les amis de la Varande.
Il y avait les amis de la Varande, bien sûr, avec un merveilleux notaire, Maître Baucher, il s'appelle, c'est ça ?
Oui,
c'est ça. Qui est un notaire comme on aimerait en avoir plus. Plein d'humour, plein de drôlerie, plein de civilité et de civilisation. Il aime la Varande, alors qu'est-ce que vous voulez ? Non, c'était vraiment un moment délicieux.
Et nous avons pu découvrir des talents cachés de notre amie Anne Brassier, qui non seulement écrit d'excellents livres qu'on vous recommande de lire, mais nous avons découvert qu'elle fait également d'excellents gâteaux au chocolat.
Des tartes merveilleuses qu'on n'avait pas du tout envie de coller dans la figure d'un curé conciliaire. On préférait se les mettre entre le nez et le menton, les tartes.
Ce genre de geste m'indigne. Oui, franchement, c'est vraiment gâcher une tarte.
Hein. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, j'aurais pris un morceau de carton et j'aurais mis de la mousse à raser dessus. Alors, donc les annonces. Oui, ce que je veux dire à propos de lire sous les pommiers, c'est que j'attends qu'on propose lire sous les tilleuls, lire sous les amandiers, lire sous les oliviers, lire sous les palmiers. Après tout, dans le Var, il doit bien y avoir quelques auditeurs de Radio Courtoisie qui pourraient organiser, comme ça, dans toute la France, des petits surgeons de la grande fête du livre de Radio Courtoisie pour les provinciaux qui ne peuvent pas venir à Paris, qui n'ont pas les moyens ou pas le temps ou pas envie. Et nous, à nos frais, je précise, parce qu'il ne s'agit pas de nous faire payer des voyages, mais ceux qui voudraient aller présenter leurs œuvres pourraient descendre et rencontrer les auditeurs de Radio Courtoisie dans les villages et dans les hameaux de la province. Ça serait merveilleux, ça. Vous, là-bas, vous pouvez, sous les pneus Michelin, vous pouvez pas nous organiser quelque chose, faire ça?
Je peux vous faire, si vous voulez, lire Sous les volcans.
Ah, Sous les volcans, très bien, très bonne idée. Alors, en attendant, on vous l'a dit, le prix Daudet sera décerné par les auditeurs de Radio Courtoisie. Ça se passe très prochainement, le 7 novembre, c'est ça ? Le 7 novembre, à la mutualité, sans doute, oui, enfin, je dis ça, j'en sais rien, en fait. Le prix Daudet récompense la personnalité française ou francophone ayant le mieux servi la langue française. Alors, vous connaissez le truc, vous envoyez une enveloppe timbrée, et par retour, vous recevez un bulletin de vote, qui est, on voit, prix Daudet 2002, décerné par les auditeurs de Radio Courtoisie. Le prix Daudet récompense la personnalité française ou francophone ayant le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Cette personnalité est choisie parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou les producteurs de télévision. Dessous, il y a un carré marqué « Je vote pour ». Alors là, vous remplissez « Je vote pour » : Vladimir Volkov. Ensuite, vous mettez « Monsieur » ou « Madame ». Alors, vous rayez la mention inutile. Si vous êtes une dame, vous rayez « Monsieur ». Si vous mettez « Vous êtes un monsieur », vous rayez « Madame ». J'explique bien, hein, tout ce qu'il faut faire. Et puis, vous mettez votre nom. Et ensuite, vous faites parvenir ce bulletin rempli sous pli fermé avant le 30 octobre à minuit, caché de la poste aux enfois, à l'huissier chargé du dépouillement, SCP, Société Civile Professionnelle, Robert Oisan, O-U-A-Z-A-N, 48 rue Chaussée d'Antin, 75 009 Paris. Hein, vous avez compris?
Oui, il y a quelque chose qui me plonge quand même dans les spectatives. Dans oui. Ce disent, monsieur, madame, rayez la mention inutile. Si jamais monsieur le maire voulait participer...
Il raye les deux mentions, lui. Voilà. Donc, alors, vous avez compris, je vote pour 2 points Vladimir Volkov, monsieur et madame Tartampion, etc., etc. Voilà.
Alors, je fais une précision, je tiens à préciser à monsieur le maire du 16e arrondissement que ce n'est pas lui dont il est question. Jamais trop prudent.
Voilà, quand j'étais à Toulon, un bref passage à Toulon...
Ah bon, vous avez été à Toulon, vous?
Oui, vous aussi, d'ailleurs. Vous vous rappelez du nom de la dame qui s'occupait de notre service, qui était notre secrétaire, d'ailleurs?
Je me souviens que son prénom, c'est...
Non, pas elle, l'autre dame, qui s'appelait madame le maire.
Oui, exact. Maintenant, je m'en souviens.
Il y avait pas mal de trucs, parce qu'il a dit, est-ce que madame le maire est là? Je dis, non, madame le maire n'est pas là, elle est chez elle, enfin bon. Et donc, voilà, c'était... Bien. Alors... Je me tourne maintenant vers mon petit paquet d'annonces et je vais les faire et puis après je donnerai la parole à mes invités. Donc le 12 octobre 2002 à Lisieux, 6e pèlerinage annuel de la tradition, messe à 15h suivi du salut du Saint-Sacrement à la Basilique. Lisieux, 12 octobre. Vous pouvez vous renseigner au 02 31 08 03 85. Ce pèlerinage est organisé sous les... auspices, sous l'égide, à l'invitation, je ne sais pas comment on peut dire, de monsieur l'abbé Renaud de Lamotte, 02 31 08 03 85, 12 octobre, 15h, Lisieux. Autre message, ça je mets de côté parce que c'est une chose particulière. Le 5 octobre 2002, l'église de la Trinité, à 20h, sera donné un concert Johannes Brahms, un requiem allemand, sous la direction de Bertrand de Billy, qui est Kapellmeister, chef d'orchestre, mais qui est surtout le parrain, enfin qui est aussi le parrain de l'association Agir pour le Cambodge. Et donc ce concert du 5 octobre 2002 à la Trinité, à 20h, sera donné au profit de l'association Agir pour le Cambodge. Le prix des places est de 15 à 40 euros. On peut réserver au 01 47 27. 50-03, ce sera interprété par le chœur régional Victoria. Tiens, Victoria, je vous embrasse à propos. Elle va mieux, elle va nous rejoindre bientôt. Mais c'est pas elle qui chante dans le chœur, hein, c'est une autre Victoria. Le chœur régional Victoria d'Île-de-France, l'ensemble vocal Paris Consort et l'orchestre symphonique du Conservatoire supérieur de Paris. Soprano Christian Kaiser, baryton Jochen Schmeckenbecher, sous la direction de Bertrand de Billy. Bon, c'est malin, ça. C'est malin de faire de l'humour sur les noms propres, hein. Alors vraiment, samedi 12 et 26 octobre 2002, 15h30, 86 rue de Grenelle, rue du Bac, conférence de l'abbé Néry, l'évangélisation du Mexique. J'ai dit 12 et 26 octobre, 86 rue de Grenelle, 7e, métro rue du Bac. Voilà. Nos amis... de âmes et racines, et non pas de armes et racines, comme j'ai pris l'habitude de le dire bêtement, on en a fait la réflexion, recevront le samedi 12 octobre 2002, de 14h30 à 18h30, dans leur magnifique et sympathique librairie versaillaise, Marie-Madeleine Del Perugia, qui dédicacera son livre Madame de Pompadour, ainsi que son nouveau livre sur Marie-Louise, et le 14 décembre, Reynald Secher, qui dédicacera ses bandes dessinées historiques, ainsi que Gilles et Bleuzen de Pont-à-Vis, qui dédicaceront leur livre sur les cuisines des châteaux. Ça se passe samedi 12 octobre 2002, samedi 14 décembre 2002, à la librairie Hams et Racine.
Ah bah, puisqu'on parle de Reynald Secher, je vais me comporter en excellent citoyen et je vais donc de ce pas dénoncer à la police de la pensée un journaliste qui m'a tenu des propos niant l'existence du génocide vendéen.
Ah,
ça doit être interdit par la loi, ça.
On va s'arranger pour le faire interdire.
Voilà, donc...
Alors, qui c'est?
C'est monsieur Patrick Girard de l'hebdomadaire Marianne, qui m'a nié au téléphone l'existence du génocide vendéen. C'est tout juste, il y a eu deux, trois petits massacres pour lui sous la Révolution, mais c'était normal, fallait venger les morts de l'Inquisition.
Ah, rien. Ça, c'est une logique imperturbable. Le samedi 5 octobre 2002, premier samedi du mois, le mois de Notre-Dame du Rosaire, puisque c'est le mois d'octobre, donc sera dit le rosaire en la basilique de Saint-Denis, basilique profanée, à 15h avec monsieur l'abbé Néry. Décidément, il s'endort pas l'abbé Néry. Hein. Venez nombreux, merci. Responsable, c'est le responsable des rosaires qui nous fait dire ça, Alain Guillaume. Les renseignements sont au 01 43 87 81 70 ou 70 si vous préférez. Pardon.
On pourra aisément faire la différence entre l'abbé Néry et l'abbé Berger.
Oui,
et voilà. L'abbé Néry, c'est celui qui a une soutane.
Et qui n'a pas de tarte.
Voilà. Voilà. Bon, je dis ça pour des fois qu'il y aura des gens qui auraient encore envie de resservir du dessert à l'abbé Berger. Alors,
celui qui a une soutane, il ne faut pas. Alors, le 10 octobre 2002 à 20h30, conférence de Guillaume Faye sur le thème l'avant-guerre civile à la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, sous l'égide, là, ce que si on peut le dire, de la Librairie Nationale. C'est notre ami Soulas qui nous fait savoir ça. Et Guillaume Faye présentera son nouveau livre « Avant-guerre » et pourra le dédicacer. Le chapelet des enfants, samedi 5 octobre à 14h, 2 rue de la Maison Neuve, 78 600 à Maison-Laffitte. Alors le chapelet des enfants, c'est une initiative absolument charmante. Tous les enfants sont invités à venir se rassembler autour de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima pour dire le chapelet aux intentions du Saint-Père. Après la procession, goûter et projection d'un très beau film sur Sainte Bernadette et pour les plus jeunes, d'un dessin animé sur Saint Juan Diego de Guadalupe, qui vient d'être béatifié. C'est le petit garçon qui est sur le tablier, enfin, exactement, qui portait le tablier, voilà. Mais il est aussi sur le tablier puisqu'on voit son image dans les yeux de la Sainte Vierge. Vous savez de quoi je parle, faire ça, vous me regardez avec l'air d'une poule faisane qui aurait trouvé un couteau suisse.
Oh, c'est ma
poule fersane qui aurait trouvé...
Et vous disiez tout à l'heure que il fallait pas faire d'humour sur les noms. Vous mériteriez d'être américain, je tenais à vous le dire.
Alors, renseignement à propos de c'est joli comme tout ce chapelet des enfants. Vraiment c'est joli. Puis ça tombe bien aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est l'évangile du jour, c'est l'évangile où le Christ montre un enfant et dit voilà, quand vous serez comme celui-là, vous pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les renseignements pour le chapelet des enfants au 01 39 62 06 32, 01 39 62 06 32, l'adresse, je répète, 2 rue de la Maison Neuve, 78 600 Maison Laffitte. Ben, il y en a beaucoup, hein. L'abbaye cistercienne du Pont aux Dames, détruite à la Révolution française, va être célébrée à l'occasion d'une réunion qui sera donnée le dimanche 13 octobre en la salle polyvalente de Couilly-Pont aux Dames et en l'église Saint-Georges de Couilly-Pont aux Dames de 10h à 18h. C'est organisé par l'association culturelle de Couilly-Pont aux Dames, manifestation qui avait été annulée au mois de mars dernier sous l'effet de diverses pressions. Et qui aura donc lieu le 13 octobre sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Rémy de Bourbon-Parme, qui est architecte et qui présentera son livre Les Cisterciens en présence de Monsieur le Duc de Beaufremont, président de l'Institut de la Maison de Bourbon. Alors inutile de vous dire que si vous n'êtes pas légitimiste, il vaut mieux quand même vous attendre à quelques surprises. Donc les deux sujets, l'abbaye cistercienne de Pont aux Dames détruite à la Révolution et l'idée royale aujourd'hui. 13 octobre 2002, 10h à 18h, il y a un déjeuner qui sera animé par une troupe de chœurs chouans. Et c'est organisé par des gens extrêmement sympathiques.
Voilà. Et...
vous connaissez?
Oui, puisque
vous y serez.
J'y serai. Donc
on ne peut plus vous éviter. Moi. Il est incroyable ce faire sans. Il est partout lui aussi. Il est partout.
Comme disait ce cher Robert, je suis partout.
Donc 10h grand-messe, ensuite église Saint-Georges de visite guidée de l'église, déjeuner, inauguration, des souvenirs des monuments de l'abbaye, puis conférence. Alors faire des conférences après le déjeuner, moi, enfin je sais pas, chacun voit à midi à sa porte. Donc il y aura le père Guillaume de l'abbé Guillaume de Tannoirne, il y aura Franck Bousco, professeur et docteur en droit, qui parlera de la fin de la dynastie capétienne directe. François Souchal, de la Gazette des Beaux-Arts, qui évoquera le vandalisme de la Révolution française. Jean-Bernard Cœur d'Esprit, historien, musicologue, histoire, légende et symbolisme de la Fleur de Lys. Et puis l'idée royale aujourd'hui, par monsieur Nicolas Tandler, président du Cercle légitimiste châteaubriand. Il ne va pas faire ça là-dedans. Vous ne faites pas de discours?
Non, je ne parle pas.
Oh, c'est toujours ça de prix.
Voilà. Mais par contre, moi, je parle à Nice à la fin du mois.
Et vous avez l'intention de revenir
sur
de Nice?
Oui. Bah...
Quand parlez-vous à Nice?
Le 27 octobre, je donne une conférence sur le mondialisme, une nouvelle colonisation.
Vous n'êtes pas un peu obsédé, vous? Vous faites pas une petite fixette sur le mondialisme?
J'ai une réputation à défendre. Oui, on parle de moi dans la grande presse.
Oui, ça, effectivement. Comme réputation, on peut pas faire mieux. Alors, celle-là, elle est nickel chrome. Hein.
Oui, je sais pas si une vraie part de cause à effet, mais lors de la dernière conférence, que j'ai faite, pour le cercle Chateaubriand, justement, il y a une poutre qui s'est détachée du plafond et qui est tombée à environ 15 cm de ma figure.
Vous coupez la poutre?
Je sais pas, j'enquête sur l'alibi, Voilà.
Alors, Jacqueline Sally donnera une conférence sur l'Atlantide. Alors, elle la donnera plusieurs fois, il faut croire que ça doit être une conférence intéressante. Le lundi 7 octobre à 14h30, le mardi 8 octobre à 19h30, le lundi 21 octobre à 14h30, le mardi 22 octobre à 19h30, au parloir du Colombier, 9-11 rue du Vieux Colombier, Paris dans 6e. Entrée 7€. Et le parloir du Colombier, allez voir, c'est quand même très très particulier. Vous verrez, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est un truc assez étonnant. Pardon, ben vous pourrez y aller, Pierre, vous qui vous intéressez à ce genre de sujet. Et puis il y aura une autre conférence, Regard sur l'Égypte et sa civilisation, avec un débat, le 14 octobre à 14h30 et le 15 octobre à 19h30, toujours au parloir du Colombier. Alors, le parloir du Colombier, si vous voulez des renseignements, c'est le 01 42 51 30 33, métro Saint-Sulpice. 01 42 51 30 33, Saint-Sulpice. Je signale que, très rapidement, que le procès en appel de Beljanski a eu lieu et qu'il s'est conclu par des dispositions qui sont beaucoup moins sévères que celles qui étaient prises auparavant, très coûteuses quand même parce que les gens qui étaient dans les parties civiles ont voulu faire un peu de gras quand même, mais le procès a supprimé tout le caractère, enfin l'essentiel de la chose, c'était que Beljanski était accusé de tromperie. Or, cette accusation de tromperie est rejetée par la Cour d'appel. Voilà, c'est très intéressant. On fera une émission très prochainement avec, j'espère, Gérard Wedlich, et en tout cas avec Jean-Paul Leperlier, qui vient d'écrire un livre sur l'aventure extraordinaire de Gérard Wedlich, le survivant illégal, qui sera publié chez Très Daniel dans les semaines qui viennent. Alors je vous le signalerai et on fera une émission là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, dernière chose, et après on va revenir à l'actualité. Le samedi 19 octobre 2002, 11e journée du livre de l'école Saint-Louis, 8 rue de la Sirène à Nantes. Alors, on a beaucoup d'auditeurs à Nantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cette journée du livre se déroulera en présence de Monseigneur Titien Malraux, de Francis Bergeron, d'Anne Bernet, de Michel Chapalin, de Dax, de Claude Mouton, d'Huguette de Pérol, de Jean-Louis Picoche, de François de Valmeignier, et d'Armel de Vimes. Ce rendez-vous culturel de la tradition catholique à Nantes aura lieu le samedi 19 octobre 2002, de 14h à 19h, 8 rue de la Sirène, téléphone 02 40 94 29 17, 02 40 94 29 17. Voilà. Si vous savez pas quoi faire de vos week-ends qui arrivent, vous avez encore une ressource, mon cher René Froment, c'est d'aller au marché Brassens, dont vous êtes l'une des grandes figures en tant que président du GIP.
C'est une association qui est très ancienne.
Si vous parlez pas dans le micro, on peut pas vous le dire.
C'est une association maintenant qui commence à être très ancienne, comme moi d'ailleurs, et qui réapparaît en force maintenant, puisque derrière le marché Brassens, on vient de monter la maison de la bibliophilie. Ce qui veut dire que nos activités explosent, on n'a jamais tant fait de choses, maintenant toujours autour du livre.
Alors, cette manifestation particulière que vous préparez...
Chaque mois d'octobre, on fait toujours un hommage à Brassens, c'est un jeu, c'est festif, on fait ce qu'on appelle le tremplin de la chanson. Deux jours où les amateurs ou les futurs chanteurs s'expriment qu'avec des chansons de Brassens. Le week-end d'après, on fait comme chaque année à Brassens, au marché Brassens, une exposition sur les livres d'enfants d'autrefois. Et les livres d'enfants d'autrefois sont consacrés cette fois à Pierre Joubert et Pierre Prost.
Pierre Joubert qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps.
Oui, et notre ami Pierre Prost sera là pour pouvoir signer encore ses livres. Parallèlement, toujours dans la tradition, mais la nôtre cette fois, puisque ça fait 15 ans qu'on pratique toutes ces fêtes, on fait la dictée des bouquinistes, qui en est à sa 11e version.
Ça, c'est un grand succès.
C'est un grand succès, on n'en revient pas. Ouais. Avec une publicité très modeste, avec juste ce truc, j'ai déjà 130 personnes qui sont inscrites. C'est extraordinaire. Ce sont souvent les mêmes amateurs que ceux qui vont chez Pivot, et ils viennent vers nous parce qu'il paraît... Il paraît pas, même, c'est une certitude que notre dictée est un peu barjo et beaucoup plus difficile que celle de Pivot.
Barjo, comment ça s'écrit?
B-A-R-J-O-T. C'est comme ça que je l'ai écrit, et vous?
Oui, moi aussi, B-A-R-J-O-T. Oui, je l'écris pas parce que c'est pas correct, c'est pas du français correct.
C'est un argot. Ouais, moi, donc cette dictée aussi est extraordinaire. Parallèlement, alors, la maison de la bibliophilie maintenant commence à prendre sa vitesse de croisière. Puisque nous en sommes maintenant à la troisième exposition. Je rappelle qu'on a fait la première exposition sur la bibliophilie dans tous ses états, c'est-à-dire qu'on avait confié des vitrines à certains collectionneurs du marché, et on a assisté à la sortie de bouquins extraordinaires, puisqu'on a pu voir dans notre galerie l'original de Rimbaud, que ça soit les illuminations ou bien la saison en enfer. Donc il s'avère qu'il y a des gens qui fréquentent Brassens qui ont de très très belles collections.
Il faut dire que cette maison de la bibliophilie que vous avez créée, c'est une aventure extraordinaire parce que au début Brassens, un petit marché d'antiquaires du livre, enfin d'antiquaires et de brocanteurs du livre. Et puis ça a pris une vraie dimension culturelle au sens incarné du mot, au sens charnel du mot, c'est-à-dire que c'est devenu un lieu de rencontre. Les gens viennent à Brassens le samedi et le dimanche, on parle, on discute, on rencontre des gens, on cherche des bouquins, c'est passionnant pour ceux qui aiment ça. Ensuite on va déjeuner dans les petits restaurants du coin, ce qui est très sympathique aussi. Et puis à partir de ça, de ce mouvement spontané, en quelque sorte, vous avez créé une maison de la bibliophilie, c'est-à-dire que vous avez acheté un local, l'association
oui,
a acheté un local.
Oui, l'association est à bonne école, puisque avec mon complice Roger Coudert, nous avons pris pour objectif de dire un jour, il va falloir s'installer dans nos murs et il faut qu'on gagne de l'argent. Pourquoi gagner de l'argent? On a fait ça astucieusement, puisque chaque fois qu'on fait le marché, on a un petit peu d'argent qui rentre. On a fait, pour pouvoir gagner de l'argent, le marché de la bibliophilie place Saint-Sulpice, je ne sais pas si vous le fréquentez, dans le cadre de la foire Saint-Germain. Et on a eu le plaisir de faire le salon de la bibliophilie au Carousel du Louvre, qui est maintenant reconnu comme le deuxième salon derrière le slam, c'est-à-dire la profession des libraires anciens. Avec ces trois manifestations, si j'ajoute les cotisations que nous essayons de rafler pour les abonnements à la lettre, pour la fréquentation de notre bibliothèque, puisque nous avons monté une bibliothèque à la maison de la bibliophilie, qui commence à être assez riche, qui permet maintenant à des gens de venir travailler et de faire leurs recherches bibliographiques. Quand j'ajoute tout ça, au bout de 15 ans, on a gagné de l'argent et on a pu acheter des locaux.
Et alors, dans ces locaux, vous organisez donc des expositions avec des pièces parfois
intéressantes.
Très, très, très exceptionnelles, très rarissimes. Et pour cause, elles sont uniques.
On a aussi pour vocation, c'est aussi de rendre hommage à certains éditeurs. Et actuellement, nous avons, puisque Monsieur Lafont a quitté ses activités, il est encore présent puisqu'il a un certain âge, nous allons lui rendre hommage à travers une exposition. Et on a regardé à travers toute sa production de peut-être 10 000 volumes ce que le bibliophile facétieux va retenir. Et on a trouvé effectivement dans la production de Lafont certains titres qui sont dignes d'un collectionneur, puisqu'on a trouvé le Marie-Laurent V qui a illustré une princesse de Clèves. Quand M. Lafont était arrivé à Marseille en 1941, il avait la tripe du beau livre. On a trouvé aussi le journal dessiné d'un prisonnier de guerre d'Antoine Roux, un ouvrage aquarellé tiré à 200 exemplaires, c'est pas beaucoup. Hein. On a trouvé aussi Louis Parot qui a été illustré par Valentin Hugo. On a trouvé la revue Change illustrée par Matta. Et on a trouvé des tirages de Tétassé avec des envois assez extraordinaires de Lanza Del Vasto, de Marie Mouron, de Jean Dutour, de Lorca. Tout ça des tirages de tête. Et on l'a trouvé, vous savez, avec qui? Avec un collectionneur qui s'était pris de Lafont et qui a sorti toute sa collection pour cette exposition. Donc Lafont est maintenant est présenté à travers cette exposition du 27 septembre au 27 octobre. Pour conclure aussi cet hommage à Lafont, nous faisons à la mairie du 15e, puisque la mairie du 15e maintenant s'intéresse de plus en plus à ce que nous faisons. On fait une rencontre débat autour de Robert Lafont, éditeur. Ça sera animé par un petit jeune, Olivier Cariguel. Il y aura Jean-Claude Carrière. Il y aura aussi un libraire qui s'appelle Autumn. Donc, toutes ces activités font que maintenant le GIP bouillonne. On a récupéré quelques bénévoles. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'y arriverait plus. Ce qui fait que ce lieu maintenant là-bas qui était un petit peu en perdition devient une attraction extraordinaire. Si on considère que le parc Brassens est magnifique, que oui, en plus, juste derrière il y a le théâtre magnifique de Sylvia Montfort, et puis pas très loin on a fait pour le temps des Montparnasse, on a fait une petite alliance avec les peintres de la ruche et deux, Dieu sait qu'ils sont difficiles à approcher, qui maintenant nous ont découvert et nous apportent parfois des œuvres à exposer.
Il y a une chose qui est amusante, en face du, enfin pas très très loin du GIP, de la maison des bibliophiles,
oui.
Il y a un lieu parisien qui est très bizarre. On a l'impression d'être dans une ville
flamande.
On a l'impression d'être dans un quartier d'Anvers.
Ouais, mais la rue Santos du Monde, c'était une rue secrète un petit peu. On ne sait pas qui habite là. Ouais. Je vous ferai remarquer que c'était là qu'habitait Brassens d'abord. Puisqu'il avait deux maisons dans la rue Saint-Antoine-du-Mont, dans ces immeubles en forme de tympan, comme vous dites, en forme flamande. Et il l'avait bien choisi parce que derrière chaque façade qu'il y a, il y a des jardins.
Oui, les jardins.
Ces jardins, on ne les voit pas. Donc cette rue, c'est une rue secrète où
c'est très charmant.
Ouais.
C'est vraiment du Paris. Ouais. C'est un coin de Paris, ça, les anciens abattoirs, enfin le parc Brassens, qui restait véritablement un endroit qui fait penser au cinéma français des années 50,
ouais.
Porte des Lilas, bon, ouais. C'est évidemment très loin de Porte des Lilas, mais c'est l'ambiance un peu de Porte des Lilas avec des restaurants bizarroïdes.
Ouais. Et moi j'ai l'impression de voir passer aussi des automates un petit peu comme dans les débuts du cinéma. Mm-hmm. On a vraiment, on est au bout du monde. Mm-hmm. Moi quand je monte la rue Saint-Antoine-du-Mont, je quitte Paris.
Oui, absolument. Il faut aller au parc Brassens pour voir le parc qui est très beau, pour voir le marché qui est passionnant où on fait des affaires. Moi, j'ai fait
oui,
une affaire formidable.
Oui. Pour celui qui s'est chiné, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une crise dans le bouquin, dans le livre ancien. Les bouquinistes tirent la langue actuellement. Mais enfin, il n'y a pas que cette profession. On est obligé de regarder. Même les grands collectionneurs ont un petit peu de glu maintenant sur leur billet quand ils partaient justement acheter des bouquins. Ce qui est assez important, c'est qu'on voit arriver, il afflue maintenant beaucoup de jeunes qui se mettent dans cette profession. Et si on considère que le parc Brassens, le marché Brassens existe depuis 15 ans, je vous dirais que sont passés presque la moitié des bouquinistes de France, puisqu'ils s'en sont passés 850 chez nous.
Ouais. C'est extraordinaire. Ça crée une espèce de, je vais employer le mot, ne le prenez pas au pied de la lettre, ça crée une espèce de franc-maçonnerie. C'est-à-dire, on rencontre parfois des brocanteurs de livres, ou des antiquaires de livres, ou des marchands de livres d'occasion. On y va, et puis on se regarde, et on dit, alors le gars vous dit, mais je vous connais, vous, mais oui, mais moi aussi, mais vous étiez à Brassens, mais bien sûr.
Oui.
Alors, on finit par reconnaître les marchands de Brassens. Il y a une espèce d'air de liberté, d'air un peu, comment dire, oui.
J'aime bien quand vous en
liberté un peu canaille comme ça.
Voilà, je vais le préciser. C'est un peu l'esprit que nous y avons mis. Je pense que Brassens est un espace de liberté. D'abord, sur le plan politique, vous avez vu qu'on a de tout. Vous avez de vos amis comme vous avez des anarchos. Et le comble, c'est que ça cohabite. Et il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, d'esclandre entre ces marchands. Par contre, il y a quelquefois des clients grincheux. Là, je me suis fait attraper il y a 3 semaines. Parce qu'une dame qui devait être sûrement dans l'association des droits de l'homme m'a dit, vous n'avez pas honte. J'ai trouvé des Céline sur un étal, et j'ai trouvé même des degrelles qui sont interdits. Ben, je lui ai dit, madame, ça fait 15 ans qu'ils y sont, et personne ne s'était trippé. Mais elle me dit, je vais vous dénoncer, parce que c'est pas normal.
Au nom de la liberté, monsieur, je vais vous dénoncer. Hein,
c'est comme un certain refrain de Brassens, ça.
Oui.
Où il raconte, je crois que c'est dans une poème, dans une chanson, où il raconte qu'un jour, deux soldats allemands étaient venus le réquisitionner, je crois, pour le STO, et quand ils sont aperçus qu'il était, artiste, et que ces Allemands-là étaient artistes aussi, ils l'ont laissé tranquille, et ouais. Brassens avait dit, et s'ils avaient, comme Malraux, tenu mes vers pour moins que zéro, ils m'auraient mis au poteau avec ou sans bandeau.
Mais vous savez qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Mourir pour ses idées, à qui elle est dédicacée.
D'accord, mais de Morlante.
Mais vous savez qui est-ce qui a inspiré cette chanson? De la Mazière.
Ah, c'est Christian.
Ouais.
Ah, ça, c'est joli.
Et reprenez le texte, c'est en pleine dans le mille.
Je savais pas. Il me l'a jamais dit, oui. Ouais. Toujours très discret.
Ou la chanson des deux tontons.
Et sa dernière chanson, Les Français d'abord.
Oui, ça, c'est quand même une façon amusante de
faire sa révérence. Alors, je reprends les propos de Serge. À Brassens règne une chaleur humaine dans un esprit libertaire. On n'est pas loin de voir la silhouette de Brassens se promener au-dessus de nous.
Oui, je pense qu'il sait.
Parce que dans ce mot libertaire, il n'y a pas le mot anarchie, mais il y a le grand amour des hommes. Et Brassens a été un grand amoureux des hommes, et il avait quelque chose de sacré, c'était le sens de l'amitié et du respect de l'autre.
C'est quand même, il y a aussi quelque chose chez Brassens, c'est quand même, entre guillemets, le seul libre penseur, entre guillemets, qui ait fait une chanson déplorant la disparition de la messe en latin.
Sans le latin, mais on ne dira pas la suite. Voilà,
Et le grand miracle aussi, on peut dire que Brassens a été accaparé par toute la bourgeoisie française.
Oui,
bon. Plus on la flagelle, plus elle est heureuse.
Après tout, tant mieux.
Ça, oui, chacun trouve son plaisir comme il
peut. Et il faut dire que le marché Brassens porte bien son nom, parce que ça a été un lieu où les amis de Brassens sont venus, non pas pour se montrer.
Ce qui reste.
Oui, ce qui reste. Mais enfin, on y a vu Louis Nucera, on y a vu naturellement... Alphonse, qui était un
Boudard
habitué.
Qui, avec Nucera, qui ont fait tous les deux le prix Georges Brassens, voilà. Que nous essayons de maintenir hors de l'eau. Maintenant.
Et Pierre Monnier, toujours, quand il est à Paris, il va à Brassens. C'est vraiment un endroit d'amitié. Alors, si vous voulez y aller, où se trouve ce marché, demande un auditeur. Donc, c'est rue
Brancion, ou par Georges Brassens. Vous pouvez pas vous
tromper. Et le métro le plus proche.
104.
Ouais. Le métro le plus proche, c'est Convention. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Vous montez la rue de la Convention, la rue de Vouillé, puis vous prenez la rue sur la droite et vous tombez dessus, voilà. La rue Brancion. J'ai même oublié, vous savez qu'on s'est mis maintenant, on est complètement barjot. La maison de la bibliophilie s'est mise à faire des réunions littéraires. Ah, et à oui, savoir, vrai, on a un personnage qui maintenant fait la biographie de certains poètes, et particulièrement donc poètes, puisqu'on a fait déjà Nerval, on a fait Fargue, et on prépare actuellement le André Laude. Vous voyez, notre esprit libertaire va jusqu'à André Laude, qui a été un personnage assez truculent, assez fou, puisqu'il est mort comme un chien, lui aussi.
Ce qui, pour un poète, est la moindre des choses, quand même.
Mais oui, mais un gars qui écrit « Je n'habite pas, j'erre, je ne fonde pas, je m'efface, je ne règne pas, je laisse place au furieux scribe du grand mystère », je crois que ça mérite une belle soirée, ça.
Oui, absolument. Elle aura lieu quand?
Elle aura lieu donc le vendredi 18 octobre à 19h précise à la maison de la bibliophilie, 51 rue Santos-Dumont, Paris 15.
Merci René Froment d'être venu nous rendre visite, et puis j'espère que vous reviendrez nous voir, parce que la dernière fois que vous étiez venu, c'est il y a plusieurs années, et puis c'est un petit peu perdu de vue.
Oui, et on a peut-être aussi des projets avec votre copain là.
Ah, ça c'est très très... Alors on n'en parle pas pour l'instant, non. Mais on en fera l'annonce prochainement, c'est une très bonne nouvelle alors. Voilà. Alors, je dois dire, j'ai oublié tout à l'heure en parlant de la belle manifestation de Couillé-Pont-aux-Dames, les détails techniques, donc je vais les donner avant de passer à la suite. Ça se passe donc, aux surprises, à Couillé-Pont-aux-Dames, je me parle à moindre des choses, mais le téléphone 01 60 04 13 36, 01 60 04 13 36. Le Couillé-Pont-aux-Dames, c'est en Seine-et-Marne, à une heure de Paris par l'autoroute de l'Est, et par train à partir de la gare de l'Est, ou par le RER, et c'est à 4 km de Disneyland. Vous voyez, donc quand vous êtes à Disneyland, enfin quand vous êtes à Couillé-Pont-aux-Dames, vous pouvez continuer à être français, bien que vous soyez pratiquement sur le territoire de du camarade Mickey. Hein? Voilà. Alors ça c'est très important aussi. Je lui demande pardon. J'avais mis de côté une information tout à l'heure en disant je la lirai parce que à part parce qu'elle est importante et du coup j'ai failli l'oublier. Voilà. Le couvent Saint-Antoine. Qui est, comme vous le savez, dirigé par le révérend Père Antoine, qui actuellement est supérieur du couvent Saint-François à Morgon. Ce couvent est en train de naître et il est en train de sortir du sol et il a besoin de travaux. Alors, on ne va pas vous demander d'argent, ce qu'on va vous demander, c'est des bras. Parce que il y a deux frères qui ont été un prêtre et un frère qui ont été chargés par le Père Antoine de Saint-François de s'occuper des travaux du couvent Saint-Antoine. Et donc, le Père Jean et un frère vont s'installer sur place, sur le chantier, et ils ont besoin, ils sont tous les deux, ils vont charrier des pierres, des poutres, pelleter, etc. C'est un travail monstrueux, et à deux, c'est évidemment plus difficile qu'à quatre, et puis c'est beaucoup plus fatigant, et c'est pas aussi gai. Donc, ils demandent à des jeunes qui seraient disposés à les aider d'entrer en contact avec eux. Ils proposent de participer à des chantiers pendant les vacances scolaires, du 19 octobre au 4 novembre prochain, du 15 février au 6 mars, du 12 au 28 avril et du 30 juin au 1er septembre prochain. Si vous avez envie de rencontrer ces hommes, alors je signale que le Père Jean, c'est un moine-prêtre d'un genre un peu particulier parce qu'il était officier parachutiste. Et il est... c'est pas un mou, quoi. Si vous voyez ce que c'est pas Frère Jean des Entômeurs, mais il a son caractère. C'est un homme maigre. C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et donc, vous l'appelez, ou vous appelez, en tout cas, non pas lui, mais un monsieur qui a pris en charge de l'organisation de tout ça, qui s'appelle Monsieur Pierre Goury. Et le téléphone, c'est le 02 31 80 44 72. 02 31 80 44 72. Si vous êtes jeune ou moins jeune, d'ailleurs, parce qu'après tout, pourquoi toujours des jeunes, on peut renvoyer Fersan. Il n'est pas jeune du tout, Fersan. Ça vous ferait du bien de faire un peu de maniement de pierre. Vous savez que ça a à faire, vous. Écoutez, entre un quotidien, l'article pour le Libre Journal,
le mensuel, les quelques livres en cours
et les enfants, il doit bien vous rester quelques heures par jour pour travailler des pierres. Donc
la nuit,
voilà, exactement. René Froment a raison.
C'est vrai que la nuit je ne fais rien, je dors, c'est du temps perdu.
Oui, mais ça exactement. Je vais remédier à ça d'ailleurs. 19 octobre au 4 novembre, 15 février 6 mars, 12 avril au 28 avril, 30 juin au 1er septembre. Si vous voulez travailler à une belle œuvre. Et alors, j'ai vu des photographies des travaux commencer. C'est vraiment somptueux. Alors, ça va être encore un bel endroit. Donc, construire le couvent Saint-Antoine dans la grande... Vous voulez pas y aller, vous, docteur?
Oui, enfin, je ne sais pas. J'aime beaucoup le manier les pierres, c'est vrai.
Vous êtes jeune? Quelqu'un m'a dit que vous aviez une âme d'enfant. Les gens qui organisent le chapelet des enfants m'ont dit que vous aviez été leur président d'honneur parce que vous avez une âme d'enfant.
Ah bon? Ah.
Leur invité d'honneur, peut-être.
Ah bon?
Ouais.
Ah mais oui, c'est vrai.
Voilà, vous voyez?
C'est vrai qu'ils m'avaient invité. Ils étaient charmants.
Alors voilà, allez remuer des cailloux un peu. Téléphone, je rappelle, 02 31 80 44 72, monsieur Pierre Goury. Voilà, on en reparlera de ça parce que c'est une belle opération. Et maintenant, une surprise. Alors, je vous ai dit, c'est une surprise. J'ai pas dit que c'était une bonne surprise, hein. J'ai dit, c'est une surprise. Voilà, on en reste là pour l'instant. Si vous avez compris ce que c'est, vous téléphonez, vous avez gagné le droit de revenir en deuxième semaine. Bon, j'ai invité Pierre-Marie ce soir, une fois de plus, à son corps défendant, je le précise, parce qu'il me dit, mais non, mais ça va ressembler à de la pub. Alors, c'est pas de la pub, c'est tout simplement que cette émission étant enregistrée, chaque fois qu'on parle de Pierre-Marie dans l'émission, ou chaque fois qu'on fait toutes les émissions, d'ailleurs, font l'objet d'enregistrements sur des cassettes qui sont distribuées, vendues, etc., et qui circulent. Et ça fait que, des fois, 3, 4 mois, 6 mois, 8 mois après le passage de Pierre-Marie, je reçois une lettre, des lettres, j'ai encore reçu cette semaine deux lettres de gens me disant « Vous avez dans une émission parlé d'un professeur de piano, est-ce que vous pouvez nous donner ses coordonnées ?» Bon, alors, je me suis dit, il faut le faire revenir parce que ça intéresse les auditeurs, ça intéresse des auditeurs, ça permet à d'autres auditeurs de râler, ce qui est toujours bon parce que ça fait office de catharsis. Notamment, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui vous aiment pas du tout. Pierre-Marie, c'est le prof de piano. Alors ça, d'abord, ils trouvent que je joue très très mal du piano, ce qui prouve qu'ils sont pas totalement mauvais non plus. Mais en plus, ils trouvent que cette méthode est scandaleuse parce que elle apprend en 3 mois à faire quelque chose qui normalement demande 5 ans. Donc évidemment, sur le plan économique,
6 mois, disons.
6 mois, ouais. Ce qui sur le plan économique est moins intéressant. C'est sûr, si vous pouvez traîner derrière vous un élève pendant 5 ans, c'est plus intéressant que de le travailler pendant 6 mois. Mais enfin. Le fait est que moi, j'ai fait l'expérience, je me suis bien amusé, je me suis bien fait plaisir, je suis arrivé péniblement, je veux dire, à ce que vous venez d'entendre, c'est pour ça qu'il n'y a quand même pas lieu de s'en vanter trop fort, mais au moins, je m'amuse. Et comme j'ai un piano avec un écouteur, avec des écouteurs, je n'embête personne. Et comme en plus, en dessous de chez moi, il y a un véritable pianiste professionnel, qui est un jeune Américain qui joue à la perfection, quand je dis que je joue du piano, je dis, est-ce que ça dérange dans l'immeuble? On me dit, ah non, pas du tout, vous jouez très très bien d'ailleurs. Je dis surtout pas que c'est l'Américain, vous pensez. Voilà. Et alors, non mais je m'en fous le gars. Et j'ai fait des...
L'improvisation.
Ouais, je fais de l'improvisation.
On est parti sur une structure harmonique. Vous avez improvisé et je vous ai accompagné.
Alors, tout. Ce qui s'est passé de plus extraordinaire depuis que je connais Pierre-Marie, parce que ça c'est vraiment un phénomène extraordinaire, c'est l'homme au monde dont j'attendais le moins qu'il s'intéressât à la musique qui a pris contact avec Pierre-Marie en lui disant « J'aimerais bien essayer ». Et alors voilà ce qu'il m'écrit. Mais vraiment, je vous assure, c'est pas une plaisanterie, hein, que ce garçon-là ait pu écrire ça, ça me laisse stupéfait. Il écrit, voilà, « Je voulais remercier le premier, Serge, d'avoir invité le second, Pierre-Marie ». Et je l'ai découvert lors d'une précédente émission, je me suis mis au piano alors que j'étais nul en musique, ça j'ai pas de peine à le croire. En un an, malgré toutes mes activités, j'ai beaucoup progressé et je ne désespère pas de jouer l'Ave Maria de Schubert à la communion solennelle de mes filles. Cette méthode sans solfège est réellement extraordinaire, il n'est donc pas étonnant que Pierre-Marie ne se fasse aux ayatollahs du solfège, qui ignore tout en général de la mélodie, pour un peu je dirais qu'il est le Beljanski de la musique, et c'est signé Emmanuel Ratier. C'est extraordinaire, parce qu'Emmanuel m'a toujours apparu comme un personnage austère, un peu, je dirais presque métallique d'une certaine manière, un archiviste, un curieux qui lit, qui travaille énormément. J'imaginais pas du tout en train de faire du piano, ça me paraissait aux antipodes de, eh ben, voilà, il s'y est mis, et il est enchanté, enchanté. C'est formidable, quand même.
J'ai eu beaucoup de mal avec lui au début. Pendant le premier mois, les 4 ou 6 leçons. Et puis après, subitement, ça a démarré. Et je lui téléphone 2 fois par semaine pour lui dire « J'entends pas le piano, Emmanuel, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà.
Alors, Pierre-Marie, quelques questions utiles.
Oui.
Et puis après, on donnera... Vous êtes venu avec un témoin ?
Oui, oui. Un professeur de mathématiques.
Un prof de maths.
Dûment pédagogue qui donnera ses impressions sur cette approche de piano sans solfège.
Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire, enfin dire plutôt aux auditeurs,
oui,
en quoi consiste votre méthode, mais en restant avec les 2 pieds sur terre, parce que je sais que vous avez tendance à démarrer un peu dans les nuages.
Non.
Donc, si on veut éviter l'harmonie des sphères et autres considérations... voilà.
D'abord, bonsoir aux auditeurs qui veulent bien nous écouter. Et si ça peut leur être utile, qu'ils sachent que cette méthode que je pratique depuis 10 années a donné des résultats avec 400 ou 500 personnes jusqu'à maintenant. À la 3e leçon, si vous ne jouez pas votre première mélodie, vous êtes remboursé.
J'ai cru qu'il allait dire vous êtes renvoyé.
Non, non, vous êtes remboursé tout simplement, parce que si vous le sentez pas, c'est pas la peine de gaspiller de l'argent et de continuer. Bon, c'est une méthode pour les, pas seulement pour les Parisiens, ceux qui habitent la banlieue peuvent venir, si c'est assez loin, je peux pas y aller, puisque je me déplace, je vais chez l'élève. Ils peuvent venir à Paris, on se donne rendez-vous dans un établissement qui loue des studios de piano, et ils prennent une leçon par semaine. L'indispensable, c'est d'avoir un piano chez soi, ou bien un clavier genre Yamaha, Technique ou autre clavier, pour pouvoir répéter tous les jours. Je demande 20 minutes à 30 minutes par jour, deux fois un quart d'heure de répétition. Ça, c'est je le demande au début, mais après, au bout de plusieurs mois, il y a le plaisir qui est là, et j'ai pas besoin de demander de répéter, puisque le plaisir quand on rentre chez soi. D'ailleurs, j'ai failli avoir le docteur Dor comme élève, il me l'avait demandé, j'avais pas de place à cette époque-là, mais maintenant, avec le nouveau planning que je vais faire, je vais pouvoir... Mais oui, non, je vais pouvoir vous inviter à recevoir mon enseignement, puisque vous me l'aviez demandé l'année dernière, quand je vous ai accompagné, oui. Alors donc, cet enseignement, donc c'est une leçon par semaine, quatre leçons par mois. On ne supprime jamais la leçon, on la déplace si on a une activité ou un problème un jour. Cette leçon s'adresse à partir de 10 ans jusqu'à 77 ans. J'ai beaucoup de retraités qui ont rêvé de faire la méthode avec une approche plus facile que celle du classique, et qui n'ont pas envie à 60 ou 65 ans de se mettre à lire les notes. Alors avec ma méthode, ils sont très contents. Je m'adresse aussi beaucoup à des jeunes gens de 10 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai rencontré souvent beaucoup de nombreux élèves qui étaient des jeunes gens un peu introvertis, complexés, un peu timides. Et quand ils ont commencé à jouer, à la faveur de réunions que je favorise par les parents avec des copains, ils jouent devant les copains, ils attirent l'attention, ils sont applaudis et ils sortent de leur timidité, ils prennent conscience qu'ils ont une certaine valeur. Ça les conforte.
Ne dites pas que c'est une dimension thérapeutique, parce que maintenant, c'est plus les profs de piano que vous allez avoir contre vous, c'est l'ordre des médecins.
Non, mais dites donc, les Mayas avaient inventé la thérapie sonore. Hein. Il y a des chants Mayas qui sont destinés à des soins, comme il y a la chorégraphie qui est également une thérapie. J'étudie beaucoup les Mayas en ce moment.
Alors, je finirai par décoller.
Donc je reviens au piano à tous les élèves qui ont envie d'essayer la méthode, puisque finalement ça coûte pas grand chose. Trois leçons, si ça vous plaît pas, ben vous arrêtez, je vous rembourse, puis c'est fini, on n'en parle plus. Vous aurez perdu trois heures, quoi, c'est tout. Alors naturellement, en dehors de cette possibilité, je vais donc chez l'élève, à Paris ou bien aux portes, quoi. Et c'est donc une heure par semaine. Voilà.
D'accord. Bon, alors, voilà, on a l'aspect technique. Maintenant, il vient d'arriver un message. Alors, ça tombe très bien. Je me tourne vers... André.
Voilà,
on va l'appeler André, parce que André. Vous êtes professeur de mathématiques.
Exactement. C'est curieux, ça, les mathématiques.
C'est rare que j'ai de bons rapports avec les profs de maths. Hein. Ouais. Enfin, j'en ai plus beaucoup maintenant, mais dans le temps, ça se passait pas très bien. Alors, un auditeur nous envoie ce message auquel vous serez certainement plus à même que moi de répondre. Apprendre la musique sans passer par le solfège, cela m'a tout l'air d'être l'équivalent de la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture.
Alors, je vais répondre évidemment à cette question. Je vous remercie, en tous les cas, de m'avoir invité. C'est l'année dernière que j'ai fait connaissance avec Pierre-Marie après l'émission. Et en effet, il y a beaucoup de personnes qui vous téléphonent, qui vous écrivent après. Parce que moi, la première fois, je vous avais joint il y a un an. Et sans écho, si bien que j'avais renoncé, et puis j'étais quand même un petit peu dépité parce que ça m'avait beaucoup impressionné. Alors la méthode globale, ça n'a strictement rien à voir. La méthode de Pierre-Marie, c'est une méthode qui n'est ni globale ni non globale. Il ne faut pas transposer sur le plan mathématique. C'est une intégration du solfège. Quand on dit que c'est une méthode sans solfège, je dirais que non, justement. C'est une erreur de dire que c'est une méthode sans solfège. Elle englobe en fait le solfège et l'harmonie. Elle permet à l'élève
de progresser par sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une adaptation du professeur à l'élève qui se fait naturellement, et le professeur communique et éduque l'oreille de l'élève. Ce qui compte dans la leçon, c'est pas, et c'est vrai même dans la leçon classique, contrairement à ce que pensent les gens, même dans une leçon de piano classique, il n'y a pas que le solfège. La vraie leçon particulière que donnent les grands ou les petits ou les moins grands, c'est une communication du maître à l'élève. C'est l'éducation de l'oreille, c'est l'éducation musicale. Et avec Pierre-Marie, on joue du piano, mais on parle beaucoup musique. On parle beaucoup des rapports de la musique avec la personnalité.
L'éther des sons.
D'où l'idée de dire que c'est thérapeutique. Je dirais pas jusque-là, mais je pense que comme on atteint la sensibilité la plus profonde et que Pierre-Marie vise et essaye de donner accès à la musique à des gens qui ne l'ont pas ou qui l'ont caché.
Chaque fois, je pense à faire un parallèle entre quelqu'un qui apprend le piano et quelqu'un qui apprend à ramer dans un bateau. Quand on apprend à ramer dans un bateau, on peut avoir deux objectifs. Soit se promener sur un lac avec sa bien-aimée et prendre le frais en lui faisant faire une belle promenade sur le lac, soit devenir champion du monde de yole à 4, pardon, d'aviron. Bon. Alors, au départ, il y a un bateau et des rames. Et il est évident que la façon dont on va apprendre à ramer sera pas la même selon qu'on veut, selon qu'on se destine à faire des promenades amoureuses sur un lac ou selon qu'on se destine à devenir champion du monde d'aviron. Alors moi, quand je suis devenu pianiste, si j'ose dire, par l'intermédiaire de Pierre-Marie, c'était pas dans le but de donner des concerts
à
Pleyel, ni même au Metropolitan de New York. C'était parce que je voulais
être
dans ma bibliothèque, pouvoir de temps en temps arrêter de bouquiner, me mettre au piano et me faire plaisir en m'amusant. Ça, c'est réussi totalement. Alors que je fasse plaisir aux voisins, c'est moins sûr. C'est absolument moins sûr. Mais j'essaie de pas trop les déranger. Et je j'ai un plaisir immense. Je trouve que, alors que ce soit méthode globale ou méthode pas globale, ça n'a strictement aucune importance. Je dirais, pour prendre l'exemple de méthode globale, que la différence entre la méthode globale et la méthode Pierre-Marie, c'est qu'un enfant qui apprend à lire par la méthode globale ne pourra jamais se faire plaisir avec un bouquin parce qu'il ne saura jamais lire. Alors que moi, avec la méthode Pierre-Marie, je me fais plaisir en tapant sur un piano parce que pour l'usage que j'en ai, je joue bien assez du piano. Voilà,
Vous vous souvenez, quand je vous ai accompagné dans votre improvisation qu'on a entendue tout à l'heure, vous vous souvenez qu'il y a des moments où vous aviez une hésitation? Et je vous envoyais une harmonie qui déclenchait.
Oui. Mais ça, c'est ce que disait, c'est ce que disait le professeur André.
Il y a de la chair de poule entre nous.
Oui, mais
c'est authentique, hein.
Oui, et pourtant, c'est ce que vous disiez.
Je crois que
c'est-à-dire qu'il y a un moment où on comprend la mécanique des. Enfin, on comprend.
On ressent
de très loin, mais on ressent qu'il y a il y a une note qui est indispensable à un moment. On sait pas pourquoi c'est comme ça.
Et je crois que, en fait, la progression est tellement bien calculée, tellement minutieuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une rigueur dans la progression de la méthode de Pierre-Marie. Et il y a cette rigueur pédagogique que j'apprécie énormément, et il y a cet accès à la sensibilité musicale qui est un plaisir total. Et donc, il n'y a pas de contradiction.
On sent bien
et les
après.
Gens qui disent qu'il y a contradiction entre l'exercice, les gammes, les fameuses gammes Czerny et tout ça, il n'y a pas de contradiction entre les gammes, si on veut faire des gammes, mais c'est pas en contradiction avec la méthode de Pierre-Marie.
Alors, je me souviens d'ailleurs que j'avais fait un arrangement sur les feuilles mortes, présenté sous des phrases différentes, et j'ai un élève d'ailleurs qui a pris l'option piano avec cet arrangement, qui dure quand même 12 minutes, hein, c'était pas mal.
Bon, baccalauréat.
Voilà. Et André me l'avait demandé en m'écoutant la jouer. Mais c'était trop tôt. Il a insisté. J'ai essayé et en plein milieu, j'ai dit non, vous voyez bien que c'est pas possible. Je peux pas vous demander ça, vous allez pas y arriver, vous allez vous acharner là-dessus, ça va vous dégoûter. Laissons plus tard. Et maintenant, oui. Il est arrivé au point où nous pouvons.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il sélectionne, Pierre-Marie sélectionne, sans que l'élève s'en rende compte, progressivement, en écoutant l'élève, il sélectionne le type de morceaux qui conduit l'élève à progresser et à faire des choses dont il n'avait absolument pas idée au départ.
Absolument.
Et véritablement, quand moi j'arrive à jouer un peu de le blues, un peu des choses comme ça.
Le dernier blues. Bien, ce qui est très difficile à jouer.
J'ai jamais cru y arriver, mais ça ne s'est pas fait de façon totalement rigoureuse sur le plan du solfège. Ça s'est fait par l'intermédiaire d'autres morceaux préparatoires.
Absolument.
Que je n'ai pas moi-même analysé, mais que le professeur a analysé.
Voilà. Eh ben, vous avez bien fait de venir quand même, parce que ça a permis d'éclairer certains aspects qu'on avait, pas évoqués jusqu'à présent.
C'est l'amour de la musique que je restitue.
Comme toujours, étant donné que Pierre-Marie ne peut pas, il peut pas être chez lui et en train de donner des leçons de piano, ma petite femme accepte, avec réticence d'ailleurs, je dois le dire, mais enfin elle finit par accepter, de servir de truchement ou de plateforme téléphonique, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc si vous voulez entrer en contact avec Pierre-Marie, vous téléphonez au Libre Journal, je vais encore me faire tirer les oreilles, tant pis, 01 45 23 51 01.
Ou écrivez ou en écrivez, mettant votre numéro
voilà,
de téléphone.
Le plus simple, c'est effectivement d'écrire. Oui. Mettez une enveloppe avec... Pierre-Marie, au bon soin du Libre Journal, 4 places France Lys, 75-010 Paris. Si vous êtes vraiment très très gentil, vous en profitez pour glisser un chèque de 110 € pour l'abonnement au Libre Journal.
Bah, après exactement.
Tout, c'est
exactement.
Pas obligatoire, mais ça vous permet entre deux leçons de piano d'apprendre des choses en lisant la presse.
Et si vous êtes pressé, vous téléphonez directement voilà. En laissant
et
votre
puis,
numéro
puis nous, on transmet à Pierre-Marie qui vous appelle, voilà. Merci, monsieur le professeur. Merci de m'avoir
merci,
permis
de, Beckett, de m'avoir.
Et merci l'autre
je vous remercie,
professeur
André, d'avoir eu cette joie de rencontrer.
Et merci
un professeur.
Au docteur Dor.
Alors, docteur, la prochaine
tu vas bientôt
fois,
présenter.
La prochaine fois qu'on parle de Pierre-Marie, c'est vous qui jouerez du piano. Non, vous avez des mains magnifiques de chirurgien. Donc
des mains de pianiste.
Vous allez...
Il a des mains de pianiste.
Voilà. Plutôt jardinier en ce moment.
Ou de cycliste.
Ou de cycliste. Si
alors,
vous
qu'est-ce que c'est que cette.
Si
attendez, portez pas.
Vous reprenez la mémoire des sons comme l'on fait les noirs.
Oui,
je ne dis pas qu'ils ont inventé. Ils l'ont fait.
Ah oui.
Ils l'ont fait, vous avez
avec un tam-tam,
de...
c'est plus facile quand même, non?
Oui, mais il n'y a pas que des tam-tams. Ils ont beaucoup joué du piano, ils ne connaissaient pas ça.
Ah oui, quand le gars a commencé là. Oui, mais là, j'ai commencé trop tard. Je ne suis pas encore au niveau d'Art Tatum. Oui, ça va venir.
Il faut pas de soileur. Mais il faut quand même une mémoire pour faire ces choses-là.
Voilà. La mémoire, qu'en pense André ?
Justement, c'est très important. La mémoire, Pierre-Marie l'a fait travailler sans s'en rendre compte, sans que l'élève s'en rende compte, par des, non pas des astuces de mémorisation, mais par des, un travail qui est à la fois rigoureux, mais en même temps très très souple. Je dirais que la mémorisation, il en a fait une méthode. C'est-à-dire que sa pédagogie consiste à vous apprendre des morceaux, mais en même temps, il vous donne la clé pour mémoriser. Il ne donne pas seulement l'harmonie, mais il donne la clé pour mémoriser ce que vous venez d'apprendre. Donc, on a deux leçons. Je ne dirais pas pour le prix, pour le même prix, mais on a quasiment deux leçons. On a la leçon telle qu'elle est, académique, mais on en a une autre qui est alors artistique, et on a une troisième qui est une leçon de mémorisation. Autrement dit, c'est une pédagogie totale. C'est un tout. C'est vraiment une globalité.
Dans une phrase mélodique, il y a, comme dans la grammaire, des points et des virgules. Si vous mettez un point et des virgules dans une mélodie, vous allez bien la faire retenir facilement à un élève sans lui dire. Mais du
alors,
moment que vous...
Pierre, c'est clair, tout à fait. Je pense, il faut qu'on en reste là parce que le lecteur a des choses à nous dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur le prix des leçons. Ça, je vous demande d'envoyer un petit mot à Pierre-Marie qui vous répondra. C'est une affaire dans laquelle je ne veux pas entrer, moi. Et d'autre part, il y a naturellement un monsieur très grincheux qui dit que ça n'est pas, ça peut pas être sérieux parce que vous causez à côté, le solfège n'est pas tout, la musique n'est pas toute la musique, mais comment peut-on prétendre être sérieux si on n'est pas capable de déchiffrer des notes? C'est un peu comme si vous me disiez, comment peut-on prétendre faire du vélo si on n'est pas capable de démonter un pédalier? Bon,
comment peut-on prétendre faire de la natation sans avoir jamais appris?
Voilà. Bon, mais c'est comme ça. En tout cas, ça marche. Moi, je l'ai vérifié. Mais en tout cas, ça marche suffisamment pour qu'on s'amuse. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, pour conclure, Adeline téléphone en disant, j'ai eu ce professeur de piano, ça marche. Et elle ajoute, ce qui répond à la question sur les tarifs, par la suite, on peut continuer tout seul.
Ah oui, absolument. Bon. Attention, je recommande aux espions, il y en a un qui viennent. Moi, j'ai un très bon pendule. Et dès qu'il y a un élève qui vient, et si c'est un espion, mon pendule me prévient.
Il le jette par la
fenêtre. Voilà. Alors, avis aux espions qui veulent savoir comment je fais. D'ailleurs, ils perdent leur temps, parce qu'il faudrait qu'ils restent pendant au moins 20 ou 30 leçons pour savoir exactement comment ça se passe, puisque ça se donne que d'une manière parcimonieuse.
De la paranoïa chez les profs de piano. Il faudrait faire un truc là-dessus. Merci, Pierre.
Et merci, Serge, et merci aux auditeurs de m'avoir accordé ce temps d'écoute.
Alors, docteur, vous êtes allé à Saint-Jacques-de-Compostelle à bicyclette?
Oui,
ou à vélo?
C'est la même chose, évidemment.
Ah non, attendez.
Les Espagnols disent la bici. Nous, disons vélo, eux disent bici.
Parce que c'est pas la même chose. Les vrais cyclistes vous disent c'est un vélo, on ne parle pas de bicyclette.
Oui, enfin voilà.
Alors, donc, vous êtes parti d'où?
Je suis parti, alors comme... vous savez qu'il y a deux points de départ quand on part de France, près de la frontière espagnole. On part soit de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Oui, c'est ça. Hein.
Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin, beaucoup connaissent tout ça, qui est l'aboutissement de trois voies. L'une qui vient de Paris, Orléans, Tours. Une autre qui vient de Vézelay, de Limoges. La Via Lemonensis, je crois. La première, c'est Touronensis, par Tours. La troisième, c'est du Puy, la Podensis, qui passe par... je ne veux pas que je dise des sottises. Quelquefois, je trompe un peu. Conques, après, je crois.
Conques en Ouche.
Et alors...
Non, c'est pas en Ouche, d'ailleurs. C'est
la première voie...
Qui est un merveilleux endroit, Conques. Très,
Conques, je crois que c'est merveilleux. Ça, je suis un pèlerin.
Mais alors, à vélo. Vous êtes allé à vélo à Conques?
Alors, non, je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Non, j'ai pris le train jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais je veux dire simplement que les Allemands connaissent la première voie, celle de Paris. Peut-être aussi la seconde, sous forme de Niederstrasse, c'est-à-dire la voie basse. Mm-hmm. Et tandis que la voie haute, la Hochstrasse, alors passe par Arles. C'est la Via Tolosana, Tolosana, je sais pas exactement, latinisation de Toulouse, et donc Arles, Toulouse, et alors à ce moment-là, ce n'est pas Saint-Jean-Pied-de-Port, donc les trois premières pour Saint-Jean-Pied-de-Port, et la dernière qui passe par la Navarre, et la deuxième, alors uniquement pour la Hochstrasse, alors ça c'est, elle est effectivement assez haute, parce qu'elle passe par le Somport, qui est assez haut, et par l'Aragon, c'est-à-dire Raqa, qui a été une ancienne capitale très importante aragonaise, avec le siège des rois. Et il paraît que c'est, je ne l'ai pas pris celle-là, je l'ai pris celle de Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux, et celle de l'Aragon est très recommandée, plus longue, plus difficile, plus pauvre, paraît-il. Mais enfin, tous ceux qui la pratiquent, qui l'ont vu, on chante ça. Sa dureté et aussi sa beauté, certainement.
Mais alors, vous rouliez comment? Vous partiez?
Alors, rien d'extraordinaire, évidemment. Mais alors, je me hâte de vous dire que il vaut beaucoup mieux y aller à pied qu'en vélo. Parce que, à vélo, d'une part, c'est assez dur, ça c'est vrai quand même. Il y a des cols, on passe cinq cols, c'est quand même, dont deux au moins ont 1500 mètres, je crois. Vous me direz, on part quelquefois, assez souvent, même de 800, 900 mètres, mais enfin, quand même, il faut monter jusqu'à 800 ou 900 mètres. Et donc, des cols, il fait même un peu froid, même en septembre. Et tandis que, voilà, la grande différence, c'est qu'à pied, là, on goûte, je dirais, profondément, dans le mot, c'est le mot sagesse, hein, le mot sagesse, c'est s'apérer, c'est goûter. On goûte davantage, parce qu'on passe par les petites routes. Là, on est forcé quelquefois. On peut pas pratiquer les routes pleines de cailloux. C'est pas possible. On crèverait à chaque instant. Hein. Donc, assez souvent, on est obligé de prendre la route. Moi, j'avoue que ça m'a arrangé parce que il y avait des lignes blanches. Et comme je suis, évidemment, je ne vois pas extrêmement bien, je dois dire que la ligne blanche m'aidait bien. Et voilà, alors on peut rejoindre quand même, parfois on marche côte à côte avec les pèlerins.
Mais enfin, comment fait-on pour prier à bicyclette?
Ça c'est pas difficile, prier à bicyclette. On peut dire son chapelet mentalement, on peut pas avoir le chapelet dans les mains, enfin on peut le faire, mais c'est un peu dangereux peut-être. Et c'est mental, après tout la prière mentale c'est parfait.
Moi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas le rythme de la marche, c'est peut-être le rythme
des... Non, ne croyez pas, et alors je vais vous dire, même assez curieux, une journée c'est quand même assez long, c'est à peine si je casais les trois... les trois mystères, les, vous savez, les joyeux, les douloureux,
les glorieux.
Et les glorieux. Et bien, ça allait très bien dans la journée. J'avais le temps pour le faire. Et c'était, on pouvait méditer pas mal.
Vous étiez tout seul, mon groupe?
Oh, j'étais tout seul, mais c'est dire, on n'est jamais tout seul, en fait, parce que on est rejoint par des gens tout à fait insoupçonnés, je dirais, près d'un col, là, je rappelle, dans, au-dessus de la Castille, j'avais trouvé un groupe, enfin, un couple moscovite. Ils venaient, non pas de Moscou en vélo, mais de, ils venaient de Saint-Jean-Pied-de-Port, je crois. Et la femme, qui était toute blonde, tout à fait charmante, parlait très bien espagnol. Alors, je parle à peu près espagnol, donc le russe, je comprends pas un mot, évidemment, mais j'étais très étonné de voir des... Donc, il y a... Vous n'imaginez pas la foule
qu'il
y a.
Mais ils étaient pèlerins.
Alors, ils étaient pèlerins en vélo. Alors, il faut vous dire aussi que l'aristocratie, c'est ce qui est juste, l'aristocratie, c'est celle qui va à pied. Et je trouve que c'est juste. Si bien que quand vous arrivez dans un albergue, comme disent les Espagnols, dans une auberge, eh bien, vous n'avez pas la place la plus enviable, je dirais. Ah non, non, le cycliste, tout simplement, il prend ce qui reste. C'est-à-dire, quelquefois, c'est le dur, ça peut arriver une fois, ou simplement le matelas, ce qui n'est quand même pas mauvais. Non, non, mais les autres ont droit à tout à fait le confort et la...
Il faut planquer le vélo derrière l'auberge.
Enfin, c'est assez amusant. Alors, ceux qui n'ont droit à rien du tout, ou alors, tout à fait par protection spéciale, ceux qui arrivent en car. Il faut vous dire que ceux qui arrivent en car, quelquefois, font aussi le chemin à vélo ou à pied, ils rattrapent le car, je sais pas. Enfin, ils marchent peut-être pas, ils font pas toute la marche à pied, mais enfin quand même. Alors ceux-là, c'est le dernier des derniers. Enfin voilà. Il y a toute une hiérarchie. Mais je voudrais peut-être vous dire un petit mot sur l'historique, parce que ça peut, je pédale dans le vide, là, un petit peu, je dirais. Si je ne parle pas un peu de l'historique, parce que les gens, après tout, qu'est-ce que c'est, Saint-Jacques-de-Compostelle? On sait que c'est en Galice, c'est-à-dire dans le Finistère espagnol, que c'est assez loin de la frontière, c'est à un peu plus de 800 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, c'est un pèlerinage très ancien, puisqu'il remonte à, pratiquement au Xe siècle, la découverte des restes de Saint-Jacques, Saint-Jacques le Majeur, remontant à certains disent 908, d'autres disent 920, 930, on sait pas de façon exacte. Alors Jacques le Majeur, un petit mot sur Jacques le Majeur, parce qu'il faut aussi se renseigner là-dessus. Comment se fait-il? C'était le frère de Saint-Jean. Saint-Jean est resté à Éphèse, mais Saint-Jacques, après, tout le monde sait évidemment qu'après la mort du Christ, il y a eu des persécutions, beaucoup sont partis, et même très loin, puisqu'on sait que Saint-Lazare, enfin, avec les Marthe et Marie, sont, d'autres aussi, peut-être Marie-Salomé, sont partis et ont atterri finalement en Provence. Et moi, je suis provençal, au moins par mon père, et Sainte-Marie-Madeleine a une importance considérable. On la visite à la Sainte-Baume, Saint-Louis est venu, la plupart des rois sont venus en pèlerinage là, il y a un pèlerinage. Et voilà, donc on voyageait déjà beaucoup à l'époque, et avant même les voyages de Saint-Paul. C'est-à-dire que Saint-Paul n'a pas été le premier à évangéliser l'Europe, n'est-ce pas, quand il a débarqué à Philippe pour la première fois. Saint-Pierre, je crois, était déjà à Rome, si je ne dis pas de bêtises, et mon Dieu, il y avait déjà... Donc Saint-Jacques, il serait resté 7 ans, d'après la tradition.
Le mari, enfin oui, le mari de Sainte-Marie-Madeleine, qui lui...
Il avait un mari.
Quercy,
ah oui, le mari de Marie-Madeleine.
Oui, qui est un.
Ah bon?
Enfin, oui, absolument.
Dans le Quercy, ah bon. Enfin, il faut dire qu'à l'époque, on voyageait beaucoup, puisque on peut se rappeler que Hérode Antipas, celui qui n'a pas condamné le Christ, mais enfin qui s'est moqué de lui, qui a fait décapiter Saint Jean-Baptiste, Hérode Antipas serait mort ou en Espagne ou à Saint-Martin de Comminges.
On voyageait comment?
Par quel... mais par bateau. Je crois qu'il n'y a pas de... Ou alors à cheval, à pied. À pied, on voyageait énormément.
En diligence?
Diligence, ça n'existait pas trop. Enfin, il devait y avoir quand même quelques charrettes, j'imagine. Et puis alors Pilate, lui, a été... Je crois savoir qu'il a été de 27 à 37 en terre promise, mon Dieu, et il a tapé un peu fort sur le Samaritain.
C'est-à-dire en Allemagne.
Et je crois qu'il a été exilé à cause de ça, et on l'a envoyé à Vienne où il serait mort, je crois. Vienne, France.
Ça, c'est Vienne en France?
Vienne en France, oui, c'est pas du tout.
Il avait eu un poste en Allemagne du côté de Trèves ou quelque chose comme ça, non?
Non, enfin, d'après ce que j'ai vu dans les...
Il a fini sa carrière comme préfet du côté de Valence, selon la légende, il se serait d'ailleurs suicidé, dit-on.
Ah bon? Ah oui. Hérode est d'ailleurs été aussi en disgrâce, puisqu'elle laissait la place à son frère Hérode Agrippa, à son neveu, pardon, Hérode Agrippa, qui lui d'ailleurs Hérode Agrippa a fini par décapiter Jacques le Majeur, je crois. Parce que Jacques le Majeur, après, est revenu. Ah ouais. Les choses allaient mieux, peut-être, je ne sais pas. Il avait des disciples, je crois, Indalecio, je crois, était un des premiers disciples de Saint-Jacques, de cette époque-là. Il serait mort, donc, il aurait été décapité par Hérode Agrippa. Et ensuite, son tombeau serait revenu sur les côtes. Déjà, les Phéniciens allaient sur la côte de ces côtes-là, la côte atlantique de l'Espagne. Alors, voilà, en gros, on aurait retrouvé son tombeau de façon miraculeuse, grâce à une étoile, semble-t-il, d'où le nom de Compostela. Et alors, assez vite, il y a eu un pèlerinage local par les Espagnols, par les gens du voisinage, et puis les Français ont pris ça en main. Et à l'époque, c'était Cluny, toute puissante, c'était Cluny et Cîteaux. Et alors ça, c'est une chose extrêmement, je dirais, belle pour nous, remarquable. Le pèlerinage a battu son plein au XIe siècle, XIe, XIIe siècle. Il y avait jusqu'à 500 000 pèlerins. L'Europe n'était pas si peuplée à l'époque. 500 000 pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, oh, mais Saint-Jacques, ça devient un endroit, il y a trop de monde, il y a beaucoup oui. de pèlerins, c'est là l'endroit à la mode. Alors,
oui, c'est
tout
vrai,
le monde
ça fait
les chemins, c'est un peu
mais
vrai.
Il faut dire que
au Moyen-Âge, c'était pas mal non plus.
Mais c'était considérable. 500 000, c'était, à l'époque, c'était vraiment considérable. Et pendant le 11e, 12e, 13e, je crois, il y a eu au moins 2-3 ciels comme ça. Et alors, à chaque pas, c'est beaucoup dire, mais tous les 15-20 kilomètres, il y a une... il y avait un hospice parce qu'on recevait les malades, il y avait des lèpres, il y avait le feu de Saint-Antoine, tout ça. Et il y avait des maladreries, des hôpitaux, des lazarets. Les lazarets étaient toujours en dehors. Et il y avait des villes qui se construisaient. Puente la Reina, par exemple. Puente la Reina, c'est la jonction entre la route qui passe par Navarre et l'autre qui passe par l'Aragon. Elles se rejoignent à Puente la Reina. Et là, vous avez un pont superbe, d'ailleurs, qui est du XIe siècle. Eh bien, la ville s'est faite autour le long de la route à Caillé-Mayor. C'est la route du pèlerinage. Ah, c'était très étonnant. Et alors, la France, donc, a une place particulière, remarquable. Au fond, on met ses pas dans les pas des moines. Et je crois que c'est le pèlerinage le plus balisé du monde. Je crois que ni le pèlerinage de Jérusalem, ni le pèlerinage de Rome sont aussi bien balisés. Et de façon, pour nous, très, très touchante. J'ai vu c'était marqué 10e siècle. Est-ce que c'était vraiment une église? Il y avait une belle petite cloche. Est-ce que c'était un hospice? C'était un peu les deux, puisque on sait bien aussi que la cathédrale de Saint-Jacques recevait les pèlerins en rang serré, et ils couchaient par terre, couchaient dans les tribunes. Elle avait été faite pour les pèlerins. Et alors, une chose amusante, pour le Botafumeiro, tout le monde connaît le Botafumeiro, c'est la chose la plus connue.
C'est l'énorme en son soir.
C'est l'énorme que vous avez vu, que tout le monde a vu, que tout le monde connaît si on ne l'a pas vu. Alors, à quoi ça servait cet énorme? Pourquoi spécialement là?
Parce que ça puait l'enfer, ce truc.
Mais voilà. On ouvrait, c'était dans le transept, il se balançait dans le transept, il pesait 80 kilos, il pesait pardon 54 kilos, il était lancé à 80 km à l'heure, on ouvrait les portes du transept nord, transept sud, on faisait un courant d'air, et puis on balançait n'est-ce pas, on
le faisait. Oui, parce que les pèlerins qui venaient de se taper 800 km à pied sous
c'est
le soleil.
Ça. Alors, il n'y avait pas de douche, maintenant.
À l'époque, les douches.
Les douches n'existaient pas, il y avait des frères charmants, tout ce qu'il fallait, mais est-ce qu'il y avait vraiment toutes les douches? Je ne pense pas, il n'y avait certainement pas l'eau courante, ou peu. Quoique les Romains étaient très avancés là-dessus, mais enfin. Et alors, il y avait évidemment, un rôle sanitaire, n'est-ce pas? Assez évident. Et alors, cette route empruntée, ce ne sont pas les moines de Cluny qui ont trouvé la route, bien entendu. C'était déjà, avant même les Romains, c'était déjà les Celtibères, mais c'était surtout les Romains. Alors il faut dire, ça peut-être vous le savez, moi je l'ai appris, je dois dire, Pampelune a été fondée par Pompée, semble-t-il, en moins 74, que Léon a été fondée par Galba en 69. Et c'était un castrum carré, n'est-ce pas, avec le cardo est-nord-sud, et puis le décubanus est-ouest. Oui. Et alors, c'est assez amusant, parce que quand vous prenez cette fameuse route, c'est certainement une route romaine, mais certainement, puisque vous avez Castro Herris, qui était un endroit merveilleux, en pleine Castille, à l'ouest de Burgos, et après, vous avez Castro Mayor. Et je me rappelle qu'à, donc, le long des castrums, ou des castras, on ne veut pas dire, et donc, vous êtes certain d'être sur une route romaine. Et j'avais demandé à Castro Mayor, parce que le guide disait que là, on peut visiter les restes du castrum. J'avais demandé à une dame de Castro Mayor, qui m'a dit, oh non, 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 c'est caché, vous ne verrez pas, c'est très difficile, n'y allez pas, vous ne verrez rien, etc. Mais enfin, ça existe, voilà. Et peut-être les Espagnols ne mettent pas en valeur toutes leurs immenses richesses accumulées. Alors, je voudrais dire aussi autre chose.
Ah, oui. Pardon, excusez-moi. Non, j'allais vous demander, les fruits spirituels...
Oui, alors, l'abondance des pèlerins actuellement, 500 000... c'est ce que dit
l'achat de l'époque.
C'est pas 500 000. Quand je suis arrivé à Santiago, c'était donc le 8 septembre, et bien depuis le 1er janvier, il y avait environ entre 49 000 et 50 000 50 000 pèlerins. Donc c'est 10 fois moins, mais attention, c'était le 8 septembre et l'année n'était pas finie. Donc on peut estimer peut-être 70 000, 80 000 peut-être pèlerins. C'est surtout, alors ils sont pas réguliers bien entendu, mais en général, là j'étais dans une période d'affluence, dans un grand albergue, on était 200 à peu près. Mais à l'époque d'Emery Picot, Emery Picot était un moine de Parthenay, donc de Poitevin, et qui en 1130 a tenu un journal jour après jour de tout ce qu'il voyait. Alors incroyable, il décrit un tas de choses, il donne les noms, il donne l'état des routes et tout ça. C'était très étonnant. Très étonnant.
Bon, il nous reste 3 minutes, c'est pas bon.
Oh, 3 minutes, alors laissez-moi dire que, alors, parce que c'est la question que j'ai posée tout le temps. Mais pourquoi faites-vous le pèlerinage?
Voilà.
On m'a posé la question dès que je suis arrivé à Roncevaux. Monsieur, avez-vous un crédential? Crédential, c'est une attestation. Non, j'en ai pas. Eh bien voilà, vous donnez 1 euro. Mais pourquoi êtes-vous venu? Alors, est-ce que c'est pour des raisons, c'est eux qui posaient la question, pour des raisons sportives, pour des raisons culturelles ou des raisons spirituelles? Alors je dis, vous savez, je suis venu surtout pour des raisons religieuses. Maintenant, le sport, ça m'intéresse, bien entendu. Et puis la culture, alors, qui n'aimerait pas la culture? Tout ce qui s'est passé, romaine, visigothe, tout ça, incroyable. Et romaine, bon, et puis le Moyen-Âge, bon. Et bien sûr, religieux. Et alors, j'ai posé la même question, après tout, on pose cette question, je vais la poser aux autres. Mais je prenais des précautions en me disant, monsieur, permettez-moi. Et tout le monde n'y voyait pas d'inconvénient. Et en général, la réponse, c'est par humanisme. Et je dois, j'ai été un peu épouvanté. Oui, c'est un peu insuffisant. Dire, je le disais, vous savez, l'homme c'est bien, mais Dieu c'est mieux. Et alors, en général, les gens opinaient. Ils disaient, oui, c'est vrai. Enfin, ou ils ne disaient pas, c'est vrai, mais, enfin, ils opinaient, ils n'étaient pas contre. Et après tout, il se donnait beaucoup de mal, se lever le matin à 6h30 en pleine nuit, avec quelquefois un phare sur la tête, je sais pas quoi, c'est un Allemand qui faisait ça. Eh bien, il y faut du courage, parce que quelquefois, moi j'ai vu une femme un jour dire au téléphone, elle téléphonait à Pesnas, elle était à ce moment-là, je sais pas, 5 jours de Santiago, elle disait, j'ai cru que c'était la fin, les 5 derniers kilomètres c'était une... Elle était épuisée. Donc les gens font ça, je crois, ils le disent, finalement, c'est le sens de la vie. Et très peu vont à la messe. Moi, j'étais stupéfait et horrifié par le fait que, effectivement, le dimanche, il n'y avait pas beaucoup de pèlerins à la messe. Alors, quel drôle de pèlerin. Eh bien, ce sont des pèlerins en quête. Et alors, il y a des choses, il y a des rappels excellents sur la route. Par exemple, sur le petit fascicule de Castro Eris. On vous dit ça, on le dit en espagnol, bien sûr. Peregrino. Jesús es el camino. Pèlerin, Jésus est le chemin. Hein? Et ça, je trouve qu'on ne peut pas mieux rappeler que c'est Saint-Jacques, bien sûr, mais c'est d'abord le Christ, car c'est lui la voie,
le chemin, la vérité,
ce qu'il disait à Saint-Thomas. Et là, c'est pas Saint-Thomas, c'est Saint-Jacques, évidemment. Enfin, j'avoue que moi, j'encourage tout le monde à y aller, ça coûte pas cher. L'Espagne, ils sont beaucoup moins bêtes que nous, il y a beaucoup moins de taxes, le socialisme, c'est la taxe, vous savez, c'est la taxe et la laïcité, les malheureux, ils plongent là-dedans, les francs-maçons, tout ça. Oh, d'ailleurs, j'ai eu un franc-maçon. Il y avait un franc-maçon qui n'était pas sur la route, mais je l'ai rencontré. Il avait déjà fait la route l'année précédente à Bayonne.
Et ça n'avait pas converti.
Et alors, je lui dis, vous savez, la maçonnerie, je commence à bien connaître la chose parce que j'y pense tous les jours. Je crois que la maçonnerie, finalement, ils sont au service de Satan. Ils ne le savent pas, les malheureux. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas, les malheureux.
C'est un peu tard pour entamer un débat.
Ils ne savent pas. Et non, c'est leur excuse. Non, ce sont des inconscients. Oh là, c'est pareil. C'est le même tabac. Non, ça, je n'ai pas l'état d'âme.
On fera un débat dans la prochaine émission. On a fini là. Merci, docteur, d'être venu nous raconter votre pèlerinage. Merci, Pierre, d'être venu nous faire de la musique.
Merci, Serge.
Et puis, si vous voulez un jour débattre de la caractère satanique de la franc-maçonnerie, mes micros sont ouverts. Mais pas ce soir, parce qu'on a fini.
Le caractère religieux. Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être resté à notre écoute et à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les archives de Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech datant du 2 octobre 2002 et diffusé dimanche 19 juin 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck.
Dans le campagne.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.